Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, après une petite semaine de pause impromptue, on n'avait pas prévenu, mais c'est pas grave, on revient après deux semaines. Donc au programme de cette semaine, on va parler de If Found, de Man Eater et de Those Who Remain. Petit programme, mais je pense qu'on va réussir à faire aussi long que d'habitude, hein, c'est pas grave, parce que j'ai le plaisir d'accueillir trois de mes chroniqueuses favoris. On va commencer avec toi, Julie Le Baron. Bonjour Julie.
Bonjour Erwan.
Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et j'avais envie presque de lancer sa chronique pour le présenter, parce que on profite aussi d'être en version télétravail pour qu'il puisse être avec nous en direct. Mais on va pas commencer avec sa chronique jeu de société directement. Il est avec nous pour l'intégralité de cette émission. Jérémy Kletskin, salut Jérémy.
Salut Erwan.
Comment ça va Jérémy ?
Eh ben ça va très bien.
Ça va ? Parce qu'on a eu des nouvelles du confinement des uns ou des autres, mais toi, à Tel Aviv, ça s'est bien passé, tu en es sorti.
Ouais. On a été déconfinés presque un mois avant vous, et puis on a eu donc la situation ici un beaucoup moins critique, donc moins de pression, etc. J'imagine que c'est un peu dur pour tout le monde, mais ça va. Non, moi, pas de souci. Le dernier en plein. Beaucoup travaillé, mais...
Puis vu que tu as au moins 400 jeux de plateau derrière toi, je pense que tu manquais pas de toute façon pendant le confinement.
Ouais, justement, j'ai pas eu le temps de voir un épisode d'une série, un film, ou même j'ai joué à 2-3 jeux, c'est tout, beaucoup, beaucoup travaillé.
Très belle collection, en effet. Et c'est vrai que contrairement aux jeux vidéo dont les supports vieillissent, où tu as du rétro gaming, il faut retrouver les machines parfois qui fonctionnent, c'est compliqué. Le jeu de plateau s'est vieilli plutôt bien, finalement. Tu peux rejoindre un jeu de plateau qui a 30, 40 ans sans problème. Il y a quelque chose de presque d'atemporel au jeu de plateau, finalement.
Oui, oui, c'était la conclusion d'une de mes premières chroniques, mais tu as raison, je devrais le rappeler plus souvent. Ouais, oui.
En même temps, est-ce qu'on peut pas dire que le Monopoly a vieilli ?
Je sais pas, Buster Keaton, ça a vieilli ou pas ? Enfin, je sais pas.
Oh, bonne question.
Ok. Non, mais c'était une question. Je l'ai posée. On va commencer avec les news de la semaine, enfin du moment en tout cas. Patrick, tu voulais nous parler de Capcom.
Ouais, on va faire un petit tour chez notre ami japonais Capcom qui a remis à jour il y a quelques semaines maintenant ses chiffres de vente. Alors c'est bon, ça paraît toujours un peu obscur des chiffres de vente, mais c'est une bonne idée pour avoir une notion comme ça d'où en sont certaines grandes franchises. On se rappelle donc de Capcom, c'est un des géants japonais avec des titres qu'on connaît très bien. Alors la grande info évidemment qui est ressortie de cette mise à jour des chiffres, c'est le passage du cap des 100 millions de jeux Resident Evil vendus depuis le tout début, donc en 96. Ça, c'était le chiffre fort qui a pas mal marqué. Donc 100 millions, je crois que ça a été passé avec la sortie du Resident Evil 3 Remake dont on a parlé il y a quelques semaines, qui a bien fonctionné. Je crois qu'il avait passé les 2 millions d'unités assez vite. Il a bien fonctionné. Donc finalement, bah voilà, il a fait passer le cap des 100 millions, la franchise qu'on connaît tous très bien. Et c'était un chiffre, il y en avait un autre en fait. On peut aller voir hein, sur le site officiel de Capcom, il y a un tableau très bien fichu avec tous les volumes de vente. Et ce qui reste vraiment, vraiment impressionnant, je trouve, c'est leur numéro 1. Le numéro 1 des ventes de l'histoire de Capcom, c'est Monster Hunter World, qui est vraiment un carton monumental. Lui, il arrive à 15,7 millions de jeux vendus. Enfin, c'est colossal, c'est la meilleure vente de toute l'histoire de Capcom.
C'est le dernier en date, hein.
C'est le dernier en date et ouais, c'est vraiment un gros c'est un carton quoi qui dépasse tous les autres titres de Capcom depuis le début quoi. Donc c'est vraiment impressionnant. Même l'extension Iceborne qui est sortie quelques mois après, elle tape à 5 millions, plus de 5 millions d'unités. Enfin c'est vraiment vraiment un gros carton. On peut dire que Monster Hunter, nous on l'a toujours vu de France avec un côté un peu décalé, c'était auparavant sur des machines genre la PSP ou la DS, un petit peu sur la Wii ou la Wii U, on la voyait toujours un petit peu comme une licence secondaire, moins populaire qu'au Japon ou au Japon ça a toujours été un phénomène de société. Là, on peut dire en tout cas, Capcom a réussi de la rendre internationale avec ce volet connecté, ce volet qui est dans l'air du temps. Et moi, je pense que c'est loin d'être fini. Puis on rappelle quand même qu'il y a le film. Il y a le film hein, de Paul Anderson qui arrive normalement pour octobre prochain. donc on rappelle, c'est le réalisateur des films Resident Evil. Donc je pense que oui. Ça ne peut qu'accélérer les ventes, n'est-ce pas ?
Bien sûr.
Oui, non, on va le dire.
Le talent, la qualité.
C'est sûr, mais moi j'en attends énormément. Gros bien plaisir sûr. Coupable que j'assume totalement. Moi, les premières images me font complètement rêver. Sinon, un autre chiffre intéressant, toujours chez Capcom, hein, c'est la remontée impressionnante de Resident Evil 7. Vous vous rappelez, Resident Evil 7, c'est un peu le titre de la rupture d'il y a quelques années déjà maintenant, mais qui avait pas mal fait parler avec ce passage à la vue subjective, à une horreur un peu plus viscérale, un peu plus roots, qui était un peu à la traîne sur les ventes. Hein. On avait dit, oh là là, Resident Evil 7, il n'a pas égalé. Ben, en fait, il est remonté tout doucement. Là, il est à 7,5 millions de ventes, donc il est vraiment bien remonté. Il se classe dans la bonne moyenne des jeux de la série. Et quand on regarde ce tableau, qu'on pourra donner le lien, il est intéressant à regarder, on voit que le premier jeu rétro, on va dire, dans ce classement des ventes de Capcom, c'est Street Fighter 2 sur Super NES, et oui, le fameux, qui a plus de 6 millions d'exemplaires sur Super NES. Et ça donne quand même une idée de l'ampleur du phénomène Street Fighter 2 de l'époque, c'était quand même extraordinaire. Voilà, c'est le premier jeu rétro, mais il y a vraiment une longue liste et c'est vraiment intéressant à regarder. Et puis bon, évidemment, on rappelle Capcom, le contexte en ce moment, c'est qu'on est tous en attente. Il y a des grosses rumeurs sur des annonces, peut-être autour de début juin, sur un prochain Resident Evil. Alors, est-ce que ce sera le fameux remake de Resident Evil 4 qui n'a pas encore été confirmé, mais dont on parle pas mal, ou le Resident Evil 8 aussi, qui a fait pas mal discuter en rumeurs, en...
Je ne sais pas si vous avez vu passer pour les semaines qui nous attendent en termes d'annonces, mais on pensait avoir échappé un peu à la surcharge informationnelle de l'E3 avec le Covid-19. Mais j'ai vu le programme des conférences en ligne et des annonces en ligne, mais on va passer un mois de juin atroce à passer sur YouTube et sur Twitch à regarder des trailers de jeux vidéo. Enfin, parce qu'il y a le feu,
parce qu'effectivement, visiblement, les constructeurs persistent et signent la next-gen sans fin d'année. A priori, ça, c'est acté, on ne bougera pas là-dessus. Donc, c'est normal, il faut que les éditeurs tiers prennent tous la parole. Ouais, on sait qu'Ubisoft, c'est début juillet, je crois. Hein. Voilà, tout le monde se met, il y a presque un rétro-planning pour dire, on annonce les jeux ou on sort les derniers comme Last of Us 2 avant la fin d'année.
En tout cas, ça va s'égrener sur les trois premières semaines de juin. Il y en a beaucoup. Il y a un très très gros programme. Vous pouvez trouver ça sur plusieurs pages internet. Julie, toi, on reste dans les licences un peu anciennes, mais dont on n'a pas entendu parler depuis longtemps et qui refont un petit comeback un petit peu inattendu, peut-être un petit peu décevant pour l'ampleur de la licence.
Ouais, parce que cette licence, c'est Silent Hill. Et effectivement, moi, j'ai appris la nouvelle de la bonne manière, à savoir par le biais de Dead by Daylight. J'ai pas entendu parler de Silent Hill en me disant ça y est, ils vont faire un remake du 2, ils vont faire une suite, ils vont peut-être ressusciter Silent Hills. Non, en fait, ça faisait un moment en fait, que les développeurs de Dead by Daylight Behavior teasaient un peu le prochain chapitre, leur prochain DLC, en disant ça va être une licence horrifique culte depuis sa création. Donc voilà, les rumeurs allaient bon train Et donc, il a été annoncé que leur prochain DLC sortirait donc en juin et qu'on y retrouverait donc Pyramid Head en tant que tueur et Heather Mason, enfin plutôt Cheryl Mason en tant que survivante. Et donc, Dead by Daylight, pour rappel, c'est un jeu d'horreur en 4 contre 1, donc où 4 survivants doivent échapper à un tueur. Et c'est vrai qu'ils sont assez talentueux pour dégoter des licences. Jusqu'ici, ils ont quand même eu Leatherface de Massacre à la tronçonneuse, ils ont eu le Halloween de Carpenter avec Michael Myers et Laurie Strode, pareil pour Freddy, et plus récemment, ils ont aussi eu Stranger Things, donc un peu moins culte et un peu moins horrifique, mais ça montre quand même leur capacité, en tout cas, à avoir des grosses licences. Et donc là... pour l'instant, donc, ce qu'on a pu voir, c'est Pyramid Head qui est très très bien reconstitué. Enfin, vraiment, il a l'air absolument terrifiant et j'ai hâte de le jouer et de jouer contre lui. Mais effectivement, bah, ça a un peu fait grincer des dents dans le sens où c'est, quand on voit le nom Silent Hill, on préfère quand même l'idée d'avoir une suite. Quoi. Moi-même, je suis un peu déçue de ce point de vue-là. Je suis très contente pour Dead by Daylight parce que je pense que je vais beaucoup m'amuser à le faire. Mais voilà, à l'heure où les rumeurs concernant un prochain Silent Hill qui serait potentiellement en développement pour PS5, on attend d'avoir des nouvelles là-dessus, c'est sûr qu'on aimerait bien avoir plus d'infos de ce côté-là. Mais après,
si je ne me trompe pas, ça a été le désert dans cette génération, côté Silent Hill. Ça fait quand même une éternité qu'on n'en a pas eu.
Il y a eu le projet Kojima qui s'est planté, donc effectivement, c'était vraiment ce qui devait marquer cette génération. Moi, je trouve ça c'est triste. Alors, comme tu dis, Julie, c'est cool. Alors, je suis partagé entre... C'est bien que la licence soit toujours là, quelque part. Ça montre qu'elle est toujours active, qu'il y a des négociations, que... Et en même temps, tu te dis, mais bon sang, c'est pas ça, Silent Hill, c'est pas une skin d'un jeu, tu vois. C'est un peu réducteur et j'ai peur qu'on tombe un peu. Je sais que Resident Evil l'a fait. Hein. Tu as eu, je crois, des choses dans Monster Hunter. Si je ne dis pas de bêtises, sur Resident Evil, il y a eu déjà des. Mais c'est différent. Le contexte est différent parce que tu as une licence qui est active, qui marche bien. Silent Hill, c'est un peu triste de le.
Bah, c'est ça, de le cantonner à un skin, comme tu dis. Ouais.
Et ça serait bien avec d'autres choses, mais.
Ouais, après, bon, est-ce que ce serait pas la porte ouverte? Enfin, si Konami, en tout cas, est prêt à prêter sa licence, est-ce qu'il serait pas prêt à la relancer? C'est. Ouais, ça, le temps nous le dira, quoi.
Je crois qu'il n'y a pas un autre film qui était en route. Je crois que j'avais vu des rumeurs.
Arrête avec tes films.
Les films.
Oulala. Bien moins mauvais que Resident Evil.
Ah bien sûr, le film de Gantz, il est vraiment intéressant. Tout n'est pas bon dedans, mais il est intéressant à voir. Vraiment, c'est un des meilleurs aussi, pour moi. Hein. C'est une des meilleures adaptations. Mais il y avait des rumeurs, je crois, d'un nouveau film. Le deuxième, il ne faut pas le voir, par contre. Deuxième film. C'est un troisième. Bon, affaire à suivre.
Alors, toujours, on va encore parler de licences un peu datées, mais qui reviennent encore et toujours sur le devant de la scène. Jérémy, toi, c'est du côté du football.
Oui, c'est pas daté, je vois pas de quoi tu parles. Moi, ma hantise, c'est le gap culturel que je pourrais avoir avec mes enfants. Donc, ça fait des années que régulièrement, on regarde des épisodes et on va tout voir d'Olive et Tom ensemble. Donc, cette vieille série sur la 5, puis le Club Dorothée au tout début des années 90. Et voilà, cette semaine, ils ont annoncé la sortie, donc le 28 août, de Captain Tsubasa, donc le nom en japonais, Rise of New Champions, donc sur PS4, sur PC, Switch. Et l'éditeur, c'est Tamsoft. Alors, c'est marrant parce que je me rappelais de ce nom de cet éditeur, qui a fait beaucoup de jeux pas très intéressants, mais il avait fait, un de mes jeux légendaires, qui était au lancement de la première PlayStation, Battle Arena Toshinden, si vous vous rappelez, le premier jeu 3D que j'avais à la maison. Et pour moi, c'est légendaire. Et voilà. Et donc, pour moi, j'ai une double attente, évidemment, parce que l'éditeur m'intéresse énormément. Donc, on va retrouver la New Team, la Muppette, Bruce, Danny Mello, si vous vous rappelez, Ben Baker, les Frédéric et la Catapulte Infernale, etc. Ah. Donc, ces courses interminables, ces effets de ballon... Et voilà, et c'est ça qui m'a fait aimer le foot, aller l'OL. Donc le 28 août, ça va nous gâcher la rentrée des classes, parce que voilà, avec mes enfants, on va jouer à Captain Tsubasa, Olive et Tom.
J'ai regardé un peu, depuis que tu m'en as parlé, il y avait des free-to-play qui étaient sortis, je crois, il y a 2 ans, il y a un free-to-play pour mobile qui était sorti, t'avais essayé ou pas
Alors, j'avais vu ce que c'était, c'était pas un jeu d'action, c'était... Et à mon avis, il y a un truc qui m'avait beaucoup déçu, et je pense que ça va aussi arriver évidemment sur le jeu, c'est que les noms originaux ne seront pas utilisés évidemment, ceux qu'on connaît. On connaissait les Mark Landers et les Olivier. Non, on va avoir les vrais noms. Et les équipes qui avaient des... Voilà. Mais surtout, ce jeu n'était pas très intéressant. J'avais lu un peu des reviews, et puis il n'était pas adapté à mes enfants, de toute façon. Donc, je me suis dit que... ce plaisir solo ne m'intéressait beaucoup moins que de leur faire découvrir l'univers avec un jeu qui est adapté à eux.
Et là, le seul truc que j'ai pas compris, c'est si c'est un vrai jeu de foot ou un jeu d'action, entre guillemets, déguisé en jeu de foot.
Un vrai jeu de foot, avec évidemment, à mon avis, plein de choses, mais c'est un vrai jeu de foot d'action. C'est un vrai jeu de foot d'action. Alors évidemment, je pense qu'on ne va pas être du côté simulation, mais il y a des personnages qui ont des caractéristiques spécifiques, des pouvoirs spéciaux, on pourra les upgrader. Enfin, il y a plein de choses comme ça intéressantes. Il y a avoir le mode carrière, hein, s'il commence avec son petit championnat local contre la Mambo de Julian Ross, ou alors si on va directement arriver. Mais bon.
On n'est pas dans un mix comme dans les jeux de level 5, à la Inazuma Eleven ou des choses comme ça. C'est pas du tout le topo mix RPG, action. Là, ça va vraiment être.
Je t'avoue que je connais la partie, on va dire, metagame du jeu. Je ne l'ai pas regardé aussi bien que tous les effets de ballon et de tir qu'on va pouvoir faire. En tout cas, je passerai certainement moins de temps dans les menus que sur le terrain.
Il n'y a pas une édition collector de la mort avec un baby-foot? J'ai cru voir passer ça, c'est bien sur ce jeu-là, non?
D'accord.
J'ai pas osé regarder, je me suis dit, faut pas faire de bêtises, j'ai pas la place, j'ai pas l'argent, je peux pas donc stop.
Alors, juste pour en parler rapidement, parce qu'on va en reparler dans pas très très longtemps, la nuit dernière, donc nous on enregistre le jeudi 28, et il y a eu ce que Sony a appelé un State of Play sur Last of Us Part 2, un des deux derniers gros blockbusters de la PS4, en exclu. Donc c'était consacré, Naughty Dog a fait son petit événement, évidemment pas sur scène, pas avec du public, et dans un mode diffusion en direct sur YouTube, où on a vu une grosse séquence de gameplay, infiltration, action. Moi, je vous avoue que j'ai été un peu désemparé par cette présentation, finalement. Je sais que t'aimes pas ce mot-là, Patrick, mais que j'ai considéré comme étant très scolaire dans le monde du jeu vidéo, entre guillemets, c'est-à-dire que on nous disait, regardez comme c'est formidable, Ellie, elle peut sauter au-dessus de ses ennemis, elle peut customiser ses armes, attention, avec la grosse séquence où elle va mettre une lunette sur le fusil, machin. Et c'est bizarre parce que moi, ça agresse un peu le souvenir que j'avais du premier The Last of Us. Je sais que c'était pas un jeu bucolique où il fallait ramasser des fleurs dans la prairie et basé sur les émotions et ce genre de choses, mais je sais pas, moi, mes souvenirs du premier The Last of Us, c'est quand on découvre la girafe au détour d'un building en ruine. Ou
suspendu, quoi.
Non, mais c'est voilà, il y a des. On commence à prendre le contrôle d'Ellie dans la neige. Enfin, ces passages un petit peu marquants. Alors, effectivement, il y avait des morts, il y avait de l'action, ce genre de choses. Mais là, quand j'ai vu le truc, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait de mes souvenirs? J'ai eu l'impression. J'ai eu l'impression de me trouver face à une sorte de jeu d'action hyper caricatural avec... Alors, je vais vous dire, là, je vous en ai parlé quelques fois depuis le confinement, mais j'ai fini Assassin's Creed Odyssey, j'ai passé beaucoup trop de temps, et même Assassin's Creed Odyssey, je trouvais que Cassandra, des fois, elle était un petit peu violente, elle butait tout le monde. Mais bon, elle est assassin. Je veux dire, c'est son taf, elle a signé, elle est mercenaire assassin, elle bute tout le monde, c'est son taf, elle en a rien à battre. Mais là, on joue Ellie, et les exécutions, les trucs, les couteaux dans la gorge, couteaux dans le bide, machin. Je sais pas, il y a un truc où je me suis retrouvé en un peu décalé par rapport à ce qu'on me proposait. Voilà.
Ouais. Et elle a quand même son rôle à Ellie, c'est quand même de survivre. Et je pense qu'au bout d'un moment, t'es obligé de devenir une machine à tuer comme ça.
Ça dépend
pour,
en quel monde.
Pour survivre dans un monde comme celui-ci. Ouais, voilà.
Imaginez-nous si on avait une invasion d'un virus comme ça, qu'est-ce qu'on deviendrait ? On ne sait pas.
Je pense avant le prologue.
non, mais c'est j'en veux pas. Julie, je vais être clair, j'en veux pas à Ellie. En tant que telle, elle fait ce qu'elle peut dans son boulot. Mais bon, après, c'est Naughty Dog. Où est-ce qu'elle est ? Enfin, la proposition ludique me semble quand même assez proche, finalement, de ce qu'on avait dit sur Uncharted 4, où Nathan Drake bute la moitié du Luxembourg durant le jeu. J'ai juste l'impression qu'on est comme ça dans cette caricature un peu primaire du jeu vidéo. Après, je ne doute pas, le jeu a l'air sublime et je ne doute pas, en tout cas j'espère, qu'on va encore retrouver ces passages intéressants en termes narratifs et cette, une proposition un peu originale. Il faudra qu'on reparle évidemment des conditions de travail, il faut qu'on le cite à chaque fois des conditions de travail au sein de Naughty Dog et ce genre de choses. Il y a évidemment d'autres choses qui rentrent en jeu, mais j'ai trouvé le truc assez peu, enfin c'était j'étais surpris du manque d'originalité à ce point là quoi.
C'était une présentation très pragmatique, presque prosaïque à quelques semaines de la sortie, je trouve. C'était presque du gameplay comme si le jeu était déjà sorti, c'était presque du let's play en fait. Ça qui pouvait être étonnant, c'est qu'on rentrait vraiment dans les détails de gameplay. Moi je suis un peu mitigé. D'un côté je suis fasciné par l'univers, tu vois. On te réexplique que c'est 25 ans après les événements, donc tu as envie d'en savoir plus, tu as envie d'explorer ce monde.
Non, pas
25 ans. Si, je crois que c'est 25 ans après
les
événements.
Mais non, elle a 19 ans.
C'est le début de l'infection, je crois, ou c'est quelque chose comme ça.
Ah oui, 25 ans après le début. Ah oui, d'accord.
C'est des années, donc le monde a changé, tu vois, toute la région de Seattle a l'air d'être magnifique, tu as envie de découvrir ce monde post-apocalyptique. Moi, après, c'est ce côté. Moi, j'ai toujours cette réticence avec ces passages d'infiltration. Je me rappelle de passages dans le premier qui étaient un peu forcés, d'infiltration un peu, ce que j'appelle de l'infiltration grand public, tu sais, qui n'est pas toujours très fine, qui n'était pas toujours très réussie. Et puis, l'horreur, moi, il y a vraiment des séquences. Moi, je me rappelais toujours de on en avait parlé, hein, de ce teaser qui avait été passé à la Paris Games Week il y a 2-3 ans maintenant, avec la séquence Super Choc où une nana était blessée dans la séquence. Et là, on la revoit. Et c'est drôle, c'est que moi, je m'enfile des Resident Evil au kilomètre, je m'enfile des Silent Hill, parce que c'est une horreur avec de la fantaisie, c'est une horreur parfois qui va vers le bis, avec une sorte de décalage. Et là, je trouve qu'on est sur une forme d'horreur beaucoup plus. Et c'est peut-être aussi la technologie qui avance. Et je me dis que la prochaine génération va aller encore plus loin. Là, on a une horreur froide qui me fait un peu flipper. J'avoue que j'appréhende un peu ce côté, cette horreur froide, surtout dans le contexte actuel. On est tous, on est tous dans un contexte assez particulier. Et alors, où je vieillis? Ou je sais pas, mais c'est vrai que cette visualisation de l'horreur froide et dure, et je sais pas si je suis prêt. Après, je pense que le jeu me donne envie pour son univers avant tout, et puis les personnages, parce qu'on sait que ça, Naughty Dog, c'est très bien créer des personnages, les faire évoluer. Mais c'est vrai que l'action elle-même me fait un peu peur.
Je pense que c'est intéressant ce que tu dis sur justement la possibilité de distanciation que permet Resident Evil, où justement on n'a pas du tout le même processus d'identification que dans un Last of Us, où effectivement on s'identifiait tout de suite à Joël et Ellie d'une certaine manière. C'était vraiment des récits de personnes ordinaires, entre guillemets, qui se retrouvent, Ellie, elle a grandi là-dedans, mais bon, qui se retrouvent dans un truc où ils doivent endosser des rôles de tueurs, ne serait-ce que pour survivre. Et moi, je suis un peu comme vous, dans le sens où c'est pas effectivement ces scènes d'action pure, en fait, qui m'ont fait autant aimer Last of Us, c'est vraiment l'univers, l'histoire, ces moments suspendus que tu évoquais tout à l'heure. Mais voilà, après, ouais, à voir justement si cette action, qui, comme tu dis, a un côté un peu scolaire, enfin, il n'y a rien de révolutionnaire à proposer de l'infiltration, la possibilité d'upgrader ses armes, au final, pour moi, c'est pas tant un argument de vente que ça, c'est voir comment est-ce qu'ils vont coexister avec ce que Last of Us sait bien faire, quoi, à savoir une narration très cinématographique et tout le reste. Mais ouais, j'attends de voir un peu. Quoi.
Jérémy, c'est un jeu que t'attends, toi? Dans tes catégories de.
Le premier m'avait vraiment bouleversé, c'était vraiment pour moi un des jeux. Qui a marqué sa génération, j'ai adoré. Moi, ça fait quelques mois que j'ai décidé de juste pas m'intéresser en fait aux deux. C'est-à-dire que j'attendrai de voir ce qu'on en dit à Silence on joue et puis si je le prends ou pas. Mais ça ira vraiment là parce que c'est, je veux dire, il y a tellement de jeux, il y a tellement de choses qui sortent et je me force plus à part quand il y a besoin de préparer un épisode de Silence on joue. Mais vraiment, je me force plus pour le jeu. Et celui-là, je pense qu'il pourrait faire partie de la catégorie des jeux qui pourraient être très oubliés ensuite. Pas comme eux. Hein. Donc voilà, pas du tout pressé en fait. On verra. Ça peut être, peut-être qu'on sera bien surpris, peut-être qu'on sera surpris positivement. Mais moi, je passerai pas trop de temps ni à m'y intéresser à l'avance, ni à y jouer s'il n'y a pas besoin d'y jouer.
Le com des coms d'il y a 2 semaines où nous avions parlé en news d'intro de la démonstration Unreal Engine 5 avec une réaction de JP qui nous dit je ne suis pas d'accord. Alors il me dit à moi hein, parce que moi j'avais été un petit peu critique sur ce que ça m'avait fait un peu comme impression, et il dit je ne suis pas d'accord quand tu dis que les technologies montrées dans cette démo sont décevantes pour un imaginaire de joueur. Certes, ce que l'on voit est un Tomb Raider-like sans saveur, mais on y voit aussi deux technos, Nanite et Lumen, qui permettent respectivement de manipuler à loisir la matière et la lumière, autrement dit des aspects parmi les plus fondamentaux, les plus bas niveaux qui soient d'une scène de jeu vidéo. Lever les restrictions sur ces deux points, c'est de facto accorder une plus grande liberté aux créatifs de tout poil et de tous horizons, quelle que soit leur ambition créative ou ludique. Manche à balai lui répond plus de possibilités, c'est toujours mieux. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà atteint le plafond au-delà duquel l'apparence d'un jeu n'a aucun impact sur l'expérience du joueur? Les images d'Uncharted et de Red Dead 2, etc. sont déjà trop complexes pour que je puisse les assimiler. Elles sont déjà suffisamment proches de la réalité ou d'un tableau pour me faire quasiment le même effet. Elles m'absorbent, au sens où on est absorbé par une activité. Je ne vois pas ce que ces images peuvent faire de plus. Dans les jeux d'action façon Uncharted, ça peut même être un problème. Le rythme de ma partie d'Uncharted 4 a souffert de la splendeur de ces images. Je refusais de respecter le rythme du jeu. Je m'arrêtais toutes les 30 secondes pour regarder. Cette tendance de l'image de jeu vidéo à aller vers le tableau me fait penser à un enjeu un peu similaire dans la BD. Je lis tout hein, parce que c'était très intéressant.
Ouais, intéressant.
Un enjeu similaire dans la BD. La comparaison est peut-être acrobatique, mais j'ai entendu Johann Sfar dire « En BD, il ne faut pas composer aussi bien que dans un tableau, sinon on ne passe pas à la case d'à côté. » Donc dans une case de BD, on doit toujours avoir quelque chose d'un peu non fini, d'un peu déséquilibré pour t'emmener vers l'image d'à côté. Ça me paraît assez adapté aussi pour les jeux d'action. Et il finit, ouais, bah, je suis désolé, je fais une longue citation. Hein. Bon, voilà. Une démo technique qui me ferait voir le futur, ce serait une séquence montrant quelqu'un qui se réveille, qui se coiffe et qui s'habille en plan séquence avec une gestion physique réaliste des vêtements et des cheveux. Même dans les films d'animation, on ne montre jamais quelqu'un qui s'habille de manière réaliste, c'est trop dur. Je ne sais pas à quoi ça servirait en jeu vidéo, mais ça ouvrirait quelque chose, ce qui serait toujours plus que la démo de la semaine dernière, dont je connais très bien le but, permettre au concours de beat entre Naughty Dog et Santa Monica de se poursuivre. Voilà. Et
non, c'est juste... ouais, sa séquence, il a raison, mais avec des yeux crédibles. Ça, c'est toujours un truc qui reste, je trouve.
Un personnage s'habiller en animation, ça doit être chaud patate à réaliser quand même.
Mais non, mais ce qu'il dit est très intéressant sur la séquence du mec qui se réveille, qui se coiffe les cheveux, c'est le réel. C'est ne plus être dans l'imaginaire ou la fantaisie, c'est le réel, justement, se rapprocher du réel, du quotidien, reproduire une réalité virtuelle au sens fort du terme, ça serait fascinant. Moi, bon, après, je pense qu'au contraire, tu vas avoir des décors ultra fouillés, ça peut aider à une narration environnementale, ça peut aider à intégrer des énigmes, tu vois, avec des visuels plus fins. Moi, j'aime aussi quand les jeux, comme je crois que c'était The Council, intègrent de la peinture dans les décors. Par exemple, tu peux intégrer de l'art même dans un jeu vidéo. Le jeu vidéo devient dans ce cas-là un réceptacle de création qui sont au service évidemment d'une narration dans un jeu, mais je trouve intéressant aussi de donner des outils pour que les développeurs puissent plus facilement intégrer des créations d'artistes.
C'est d'ailleurs cette intégration d'outils. C'est toi, Jérémy, tu as réagi dans le forum de Silence on Joue et tu parles aussi de ce ray tracing qui permet justement aux créateurs de se libérer de trucs comme la gestion de la lumière, en fait.
Oui, oui. Ben d'ailleurs, dans la démo de Unreal 5, on n'est pas sur du ray tracing. Je crois qu'on est sur du global illumination. C'est aussi un outil qui permet d'améliorer la lumière. Mais je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui vont aller chercher du côté, on va dire, du détail, du graphisme, du photoréalisme, on est à côté de la révolution. On ne parle pas de... Ce n'est pas ça, la révolution, aujourd'hui. Les révolutions, ce sont les outils pour développeurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, un développeur, il doit créer 4 ou 5 versions d'un objet en fonction de la distance. On les voit popper à chaque fois qu'on s'en approche. Avec le nouveau moteur, c'est fini. Tu peux jeter dans ton jeu un polygone, un objet de millions de polygones, et le jeu va en temps réel t'adapter l'objet. Et donc, on est pareil pour la réverbération des sons, pour les lumières, etc. Mais on va beaucoup plus loin. Et ouais.
Concrètement, ça veut dire quoi? On va bosser plus vite ou avec moins de personnes?
Voilà, c'est exactement ce que je voulais développer. C'est-à-dire qu'en fait, les développeurs n'auront plus besoin d'optimiser les objets en 3D. Ils pourront les jeter tels quels. Ils n'auront plus besoin d'en créer plusieurs versions. Ils n'auront plus besoin d'optimiser. C'est-à-dire que si l'objet sera loin, bah, il fera un pixel ou un triangle. et plus on s'en approchera, et plus il va grandir en temps réel. Et ça, c'est quelque chose de complètement... Et au-delà, d'ailleurs, des nouveaux gameplays qui deviendront possibles, en effet, au-delà même de toutes ces choses-là, on est, en fait, on va pouvoir, dans certains cas et dans certains jeux qui demandent beaucoup de travail en modélisation, on pourra libérer, je sais pas, 30, 40, 50% du temps des développeurs. Donc, on peut imaginer ce qu'on peut faire en plus. Au-delà d'ailleurs de ça, il y aura d'autres conséquences qui sur le fait que ces moteurs-là viennent avec des outils supplémentaires. Une des grandes conséquences, d'ailleurs, j'en ai entendu parler nulle part, j'en ai même pas encore parlé dans le forum, mais c'est la conséquence sur le cloud gaming. Parce que si les développeurs n'optimisent plus les jeux, ils vont tout de suite exploser en taille. Parce qu'on n'a plus besoin d'optimiser les jeux. Donc, si on jette que des objets qui, aujourd'hui, peut-être aura une personne sur 100 qui va prendre son fusil à lunettes pour regarder la souris. Mais peut-être que ça en détaillé la souris qui va passer dans ton trou à rat. Enfin, le rat dans le trou à rat. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que peut-être que cloud gaming va devoir s'imposer parce qu'on ne pourra plus télécharger des jeux de 6 Tera parce qu'ils seront plus optimisés. Alors, donc, il y a peut-être d'autres conséquences en chaîne sur justement ces nouveaux outils, cette nouvelle manière de développer et le nouveau type de jeu qui sera possible aussi de développer. Et encore une fois, c'est la créativité des développeurs qui sauront utiliser l'outil qui va vraiment, nous montrer cette révolution. La révolution ne vient pas uniquement du nombre de pixels ou comme ça n'a jamais été.
Concrètement, tu penses qu'il y a des gens qui étaient, je ne suis pas fin connaisseur, mais il y avait des gens spécialisés justement dans la création d'objets en plusieurs versions qui vont devoir travailler autrement ou se reconvertir. Tu penses que ça peut impacter sur des corps de métier?
Je pense qu'il y a même un métier aujourd'hui. Dans le développement de jeux vidéo, c'est le métier des gens qui font lightning mapping.
Ouais.
Je sais plus comment on dit ça.
Ouais, qui sont vraiment
d'éclairage. Aujourd'hui, on en a plus besoin avec les nouvelles technologies. Il y a énormément d'activités. Donc, ce sont, je sais pas s'il y a des gens qui sont dédiés uniquement à l'optimisation dans tous les studios, mais c'est en effet une compétence qui est développée. Et dont on n'en aura plus besoin. Par contre, il y a encore d'autres choses qu'on va pouvoir développer et aller beaucoup, beaucoup plus loin, qu'on va pouvoir créer, évidemment, à partir des nouveaux outils. Et encore une fois, là, on parle des outils qui sont les plus, on va dire, conséquents, mais il y a d'autres outils qui sont plus, on va dire, plus mineurs, mais qui vont aussi arriver avec ces nouvelles générations.
Puis les moteurs maison aussi, tu as des éditeurs qui ont leur moteur à eux, qui sont à part.
Avec les moteurs maison qui seront construits en fonction du hardware, c'est-à-dire que la PlayStation 5, en tout cas, on le saura, on aura une telle optimisation qu'il n'y aura plus le goulot d'étranglement entre la mémoire vive et, on va dire, le disque dur, le SSD, le nouveau SSD. Et donc, on va pouvoir aujourd'hui imaginer que c'est comme si, en fait, tout le disque dur était dans la mémoire vive. Donc, on peut imaginer le nombre de choses qui deviennent, encore une fois, possibles, de passer sur un zoom extraordinaire. Et ça, ce sont des choses, encore une fois, qui peuvent avoir du gameplay. Et qui peuvent avoir du et ça sera adapté uniquement sur le hardware spécifique qui pourra le supporter. Et avec le temps, j'imagine, ça arrivera et ça se démocratisera.
Non, mais c'est vrai qu'on a du mal à imaginer. C'est ce genre de choses où on a du mal à imaginer les conséquences. Mais quand on voit, par exemple, comment l'absence de temps de chargement a été capitale dans un gameplay comme Super Meat Boy ou Celeste, qui était basé sur le retry constant, etc. C'est vrai que ce type de truc sur l'absence de temps de chargement, ça peut aussi déboucher sur des nouveaux types de création dont on n'a pas idée aujourd'hui. Je finis quand même le com des coms parce que il revient à la charge, Étienne Mineur, qui revient à la charge concernant les jeux de skate. Il n'y aura donc pas de nouveau Tony Hawk, mais juste un remake. Nous traversons vraiment une période lamentable intellectuellement en ce moment dans les jeux vidéo, les grands studios ne prenant absolument plus aucun risque. Ils ne sortent que des remakes surfant sur une nostalgie assez dégoûtante. Tony Hawk, Resident Evil, Final Fantasy, la trilogie Mafia, on se retrouve sur des jeux faisant uniquement la promotion d'un nouveau moteur de jeu, mais sans aucune nouvelle idée artistique de gameplay, d'univers narratif. Bref, je pense que ces gros studios n'ont plus rien à dire. Nous pourrions comparer cela avec les remakes au cinéma qui, au moins, proposent à chaque fois un nouveau point de vue, de nouveaux auteurs, avec pour exemple notable The Thing, Howard Hawks en 1932, puis Brian De Palma en 1983, Source Horror, remake du Salaire de la Peur, ou même True Lies, remake du film français La Totale. Voilà.
Ouais. Bah, du coup, il y avait des... c'est vrai qu'il y avait des grosses rumeurs sur un Tony Hawk's Next Gen, et a priori.
Ouais. C'est Tony Hawk's 1 et 2. Ça, mais... Super.
Bon, ouais. Super. Non, je comprends la déception d'Étienne, écoute, mais nous la partageons.
Ça est vrai, hein. C'est vrai, on a beau se réjouir, par exemple, de revoir revenir Resident Evil et espérer secrètement un remake d'un Silent Hill, c'est vrai qu'effectivement, en termes de nouvelles franchises...
D'idées, juste de proposer un truc nouveau. Bon, après, quand on voit la nouvelle licence de Sony, la Ghost of machin au Japon, là, en termes de nouvelles idées, on est pas terrible quand même, mais bon, hein, c'est, ça, on en reparlera. On va commencer le programme de jeu de cette semaine et on va se retrouver en Irlande. Sur la pointe ouest de l'Irlande, pratiquement à l'endroit le plus à l'ouest de l'Europe. C'est l'île d'Achill. Donc on est dans les années 90 et ça s'appelle If Found. Donc, If Found, un jeu du studio Dreamfield, édité, et c'est important quand même, édité par Annapurna, qui commence à se faire une petite réputation totalement légitime avec des très bons jeux. On peut citer, on en a parlé de Florence, on a parlé de Sayonara Wild Hearts et d'autres jeux de ce type. If Found, on est sur, on va dire, de manière globale, dans l'univers des visual novels. Mais avec pas mal d'originalité, c'est un jeu sur PC et iOS qui est disponible. Alors, je le dis parce que je vais oublier, hein, autrement. Il est disponible en VF, mais c'est tellement loin dans les menus que je m'en suis pas rendu compte, donc j'ai joué tout en anglais. Donc je voulais préciser en introduction pour ceux qui que c'est disponible en VF. Voilà, c'est If Found. Qu'est-ce que tu en as pensé, Julie?
Bah, c'est intéressant ce que tu dis sur Annapurna parce que au final c'est comme ça que j'ai appris l'existence du jeu et c'est ce qui m'a motivé à lui seul. Enfin, savoir que Annapurna était l'éditeur, ça m'a tout de suite donné envie de me plonger dedans. Et puis après, bah le reste, en fait, la direction artistique du jeu, les thèmes abordés m'ont tout de suite parlé. If Found, c'est donc comme tu l'as dit, un visual novel où on suit donc une jeune femme qui rentre chez elle donc sur la petite île d'Achill, donc 2700 habitants à tout casser. Alors qu'elle est habituellement à Dublin. Et donc, en gros, en fait, le gameplay est très simple. On va tout simplement gommer des vignettes pour dévoiler d'autres décors. Donc, en gros, elle relate un peu donc ses cheminements de pensée dans son journal intime qu'elle cherche à détruire. Et en toile de fond, il y a aussi une histoire de trou noir qui s'apprête à engloutir la Terre. Et bref, ouais, non, c'est une histoire très très touchante, donc sur une jeune femme trans qui a une relation plutôt houleuse avec sa mère et qui se cherche en fait. Donc voilà. Mais ensuite, c'est vrai que c'est difficile pour moi de parler de ce jeu dans le sens, enfin c'est difficile de le résumer sans trop s'enfoncer dans l'histoire qui est quand même tout l'intérêt du jeu. Mais disons qu'en gros, il y a cette ambiance, cette musique qui fait très bien le boulot. Et il y a aussi vraiment quelque chose qui transpire dans ce jeu, c'est l'amour de l'Irlande. Enfin, vraiment l'amour de la région mise en valeur. Ça, c'est parce qu'il y a un truc assez intéressant, c'est que quand on avance dans l'histoire, on a des espèces de petites notes relatives à un élément narratif qu'on aurait pu voir et qui vont donner des explications un peu, hein, des éléments de contextualisation
idiomatique, ouais, sur des...
C'est ça, donc c'est pour ça que je serais très curieuse de voir à quoi ressemble la traduction française, parce qu'au final, il y a beaucoup d'idiomes irlandais qui vont revenir aussi sur certaines villes, sur certains plats. Enfin, il y a un côté presque ludique, en fait. J'avais l'impression de jouer à un jeu éducatif sur l'Irlande. Mais à certains moments.
C'est important ce que tu dis, parce que je trouve que c'est alors c'est un détail, ça peut sembler un détail, mais je trouve que c'est vraiment capital dans l'expérience de If Found. C'est l'importance du lieu, l'importance de où ça se passe, c'est que en fait il y a cette structure un peu de teen movie ou de post-adolescence, de d'histoire familiale, histoire de jeunes qui cherchent, qui se cherchent, qui se trouvent, qui se trouvent pas, qui se perdent. Mais on est habitué, avec les univers notamment de séries télé, à voir ce genre d'histoire se passer dans un campus américain ou à Brooklyn ou à Paris. Hein, on peut avoir ces histoires de jeunes. Et je trouve que cet attachement au lieu, ça donne aussi une expérience qui est différente, qui a ses particularités, parce que c'est pas un détail, c'est les lieux ont leur importance, où ça se passe, dans un coin paumé d'Irlande, comme la grande ville qui fait rêver, c'est Dublin, mais c'est aussi Manchester. Ouais. Et voilà. Jérémy ?
Ouais, non, parce qu'il y a aussi des annotations. Moi, je l'ai fait en anglais, et il y a des annotations pour l'argot. C'est-à-dire que quand on est un mot d'argot en anglais qu'on ne comprend pas, on peut cliquer dessus, il nous explique. Donc, il nous accompagne quand même, parce que l'Irlande, voilà, moi j'y étais dans les années 90, vers Galway, là-bas, donc pas très loin. La bonne époque. En vacances avec mes parents, on y est resté assez longtemps. Et donc, donc c'est cet argot, et d'ailleurs cet accent qu'on ne peut pas lire et ni entendre dans ce jeu qui n'est que les visuels. On peut l'imaginer avec ces mots d'argot qu'au son, on pourrait de toute façon pas reconnaître.
Non, c'est vrai. Et du coup, Jérémy, t'en as pensé quoi, toi, de If Found ? C'est intéressant, tu l'as fait soit sur iPad ou sur téléphone, je sais pas.
Sur mon téléphone. Écoute, si tu veux vraiment que tu partages mon sentiment sur ce jeu, moi, je suis...
Tu es là pour ça.
Ça m'a profondément fait chier, en fait. Voilà, je vais dire très, très clairement. Alors, je l'ai fini parce qu'on allait en parler. Moi, Annapurna, j'adore. Hein. J'avais fait Florence à l'époque, que j'avais aussi découvert sur Silence en Joue. Et j'avais aimé, même si c'était très naïf, c'était très simple. Ça durait aussi qu'une petite heure, mais il y avait quelque chose qui m'accompagnait là. Là, je dis, t'appelles ça un jeu, ça pourrait tourner sur une liseuse. Je trouve que c'est assez dessiné avec les coudes.
J'ai
pas l'impression que ça... Ouais, mais c'est vraiment c'est dessiné en brouillon. J'ai l'impression que ce texte n'est pas si... Alors, il est naturel parce que tu sens que ça a été écrit d'une manière, on va dire, très naturelle comme ça, mais c'est pas un langage qui m'a accroché. D'ailleurs, il y a un des personnages du jeu qui va résumer en une phrase ce que j'ai pensé du jeu. Il dit « Tu rends tout compliqué et bizarre ». Et j'ai l'impression que voilà, c'est une non-histoire qui est rendue par une masse de textes à lire qui rend tout... C'est des dialogues interminables, c'est l'histoire d'une adolescence chieuse, en fait, et c'est pas un truc qui m'intéresse profondément. Et en plus, ça m'a fait des cloques au jeu, parce que sur iOS, justement, on doit en permanence gratter. Moi, il y a 15 ans de ça, j'avais acheté une centaine de billets de loterie, comme ça, c'était à peu près la même expérience. Je ne sais pas si vous l'avez fait, sauf que là, il n'y a rien à gagner. J'ai gratté pendant 2 heures et je le sens encore sur mon doigt. Franchement, ce n'est pas pour moi une super expérience. Ouais. J'ai compris ce qu'ils ont voulu dire, mais comme je ne suis pas du tout rentré dedans, je l'ai regardé vraiment de loin, j'ai vu ce que c'était cet objet. Je comprends que ça puisse intéresser. Comme il y a plein de livres en littérature, je ne vais pas aller dire aux gens c'est nul, parce que c'est juste pas pour moi. Mais voilà, donc je préviens aussi les gens qui pourraient avoir
Non, mais c'est quand même très très particulier comme parti pris. Et puis c'est vrai que autant Florence, c'était une expérience très brève, ça se faisait en une demi-heure, donc le peu de gameplay au final était compensé un peu par l'intensité de l'expérience. Là, c'est vrai qu'au final, ce qu'on va faire, c'est gratter jusqu'à s'en faire des cloques pour voir la suite de l'histoire, c'est sûr.
C'est que linéaire, en fait, c'est une visual novel, et voilà,
On est sur une structure de visual novel qui est effectivement linéaire comme un visual novel. Patrick ?
Ouais, alors moi, je comprends toutes vos interrogations. Après, connaissant le genre du visual novel, on sait qu'il y a toujours une interaction très limitée par définition. On est sur des pages contournes, etc. Là, j'ai trouvé... Moi, je l'ai fait sur PC, donc à la souris, donc pour effacer, etc. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une espèce d'aspect expérience sensorielle, audiovisuelle, une sorte de trip presque psychédélique parfois. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on sent un aspect analogique. J'ai l'impression que c'est ce qui était vraiment recherché. C'est un aspect de presque comme un clip de Michel Gondry. Il y a quelque chose de carton. On sent qu'il y a un amour de la texture. On ressent les imperfections du papier. Et puis il y a vraiment des moments réussis, je trouve, visuellement, notamment lors du concert, où vraiment ça part dans des visuels complètement éthérés qui partent dans tous les sens. Après, moi, j'étais plus partagé sur la dichotomie narrative entre donc l'histoire de ce personnage en 93 et l'autre temporalité qui parle du trou noir, etc. Et c'est vrai que le lien entre les deux est pas évident. Et c'est là où j'ai eu plus du mal à suivre ce parallèle entre les deux, qui fait que, alors je comprends ce qu'ils ont voulu faire. On le sent d'ailleurs vers la fin du jeu. Il y a des plans où on sent que c'est flagrant. Ils ont voulu jouer sur l'échelle macro, micro, jouer justement sur l'ampleur de, à la fois sur le papier, du dessin et de la narration. Je trouve que dans la forme, c'est réussi. Sur la narration, moi aussi, j'ai tiqué parfois, j'avais du mal. J'ai même eu concrètement des pages où j'effaçais sans vouloir certains passages avant de les lire parce que on te donne la main. Du coup, tu commences à effacer des passages pour dégager des textes, mais tu peux effacer si tu fais pas gaffe. Tu peux effacer un morceau. Je crois pas que tu puisses revenir en arrière. Donc, j'ai aimé la sensation d'interactivité dans l'exploration des pages, même parfois où tu peux vraiment explorer une page un peu librement. Tu te sens libre d'aller chercher un morceau de phrase, un morceau de... C'est plus, pour moi, c'est vraiment de l'expérimental. C'est vraiment un jeu expérimental qui reste avant tout une expérience sensitive, sensorielle, intéressante. Après, je suis d'accord sur l'histoire, je suis plus mitigé, notamment sur ce lien qui a du mal à se faire, en fait.
Ouais, moi, pour vous dire, ça m'a... Alors, moi, j'ai été plutôt touché par l'histoire. Ça m'a rappelé tout le travail, notamment de Sébastien Genevaux, qu'on avait reçu avec Lie in My Heart sur le jeu expressif. Donc c'est cette façon que le jeu vidéo peut avoir de raconter le réel et d'apporter aussi quelque chose à ces récits-là. Et je trouve que autant moi je sais que j'ai parfois du mal avec le gameplay entre guillemets visual novel où on va cliquer sur des bulles pour passer des dialogues ce que If Found utilise parfois et c'est pas les parties les plus réussies où on doit passer on doit cliquer sur des bulles pour arriver au dialogue suivant. Moi je trouve que ce gameplay de l'effacement je trouve assez intéressant parce que il met le joueur dans une relation au récit que je trouve finalement assez mélancolique parce que on va lire quelque chose et on va l'effacer tout de suite et je trouve que il y a comme ça un alors après si on rentre pas dedans je peux comprendre que ça peut faire des cloques aux mains et que finalement ça n'a pas d'intérêt mais si on rentre un peu dans l'histoire je trouve que le fait comme ça d'effacer les choses d'effacer cette tragédie qui est en cours alors tragédie en vue à la première personne, parce que c'est une histoire de post-adolescent, d'adolescence, de post-adolescence, où effectivement, il y a des choses qui prennent tout de suite des proportions énormes. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de finesse dans la manière de raconter, notamment le fait que la transidentité, qui est assez centrale dans le récit, ne le soit pas dans les mots qui sont utilisés. C'est que c'est finalement un thème qui est qui reste assez anecdotique, enfin, par petites touches après on peut parler de transidentité de manière frontale et ça a pas de problème hein. Normal Lost Phone l'a fait de manière un peu plus appuyée et c'était super mais là j'ai justement aussi trouvé que c'était une autre manière d'aborder ces sujets et ce côté récit de l'adolescence. Eh ben, j'ai trouvé que c'était adolescence, post-adolescence, hein, parce que l'héroïne Casio, elle a la vingtaine. 20 ou 25 ans, je ne sais plus.
Moi, je crois que c'est ça, ouais, 25, 26. Je sais plus,
Casio, ce n'était pas le premier affaire de Seyard dans Les Chevaliers de Zodiac, celui avec une coupe l'oreille.
De quoi ?
Je disais, je connaissais ce nom. Cassio, c'était pas dans Les Chevaliers de Zodiac, le premier adversaire là, dans l'arène des premiers épisodes. Non, je disais que je connaissais ce nom, c'est pour ça que...
Mais je crois que justement, ouais, elle a trouvé ce nom-là.
Oui, je ne sais plus d'où ça lui vient. Ouais.
Ça lui vient dans un truc de ce genre-là.
Non, là, c'est à cause de Cassiopée. Non, c'est à cause de Cassiopée dans l'histoire.
T'es sûr?
Je ne vais pas spoiler en direct là, mais à mon avis, c'est à cause justement du parallèle entre les deux histoires et c'est de là dont.
Non, attends, elle parle d'un personnage. Elle parle d'un. Je me demande si elle ne parle pas d'un personnage d'animé ou ce genre de choses. Enfin, bref, ou d'un personnage de jeu vidéo. Enfin, je ne sais plus. Mais c'est, enfin, juste pour terminer, mais c'est, moi j'ai trouvé que en plus le gameplay de l'effacement, il prend aussi tout un sens nouveau à la fin du jeu où on recrée à la place d'effacer. Mmh. Du coup, en fait, j'ai trouvé que ce rapport physique à l'histoire qu'on a avec l'effacement, il m'a rapproché de cette ambiance générale. Comme un visual novel n'aurait pas pu le faire. Enfin, avec un gameplay classique, finalement, ça aurait pas pu le faire. Et voilà, et je l'ai dit au départ, je trouve que le fait qu'il soit situé en Irlande, dans une époque, ouais, dans un lieu, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant parce que on a l'impression d'y être. Alors, Marius, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui,
il a tué rappelle... les visuels.
Ouais, et alors il rappelle à très juste titre, et c'est vrai que moi je me demandais où j'avais vu ces traits-là, que ça rappelle le boulot de la jeune dessinatrice américaine Tilly Walden. Tilly Walden, elle a fait, alors je l'ai dans ma bibliothèque, je regarde, voilà, elle a fait on appelle ça les romans graphiques, hein, mais bon, c'est une BD, qui s'appelle Spinning. C'est notamment sur le patin à glace synchronisé, et c'était vachement bien, et c'est un peu le même style de dessin. On peut ne pas accrocher, hein, n'est-ce pas, Jérémy, à ce style de dessin.
Non, mais il y a un petit côté, marrant, parfois griffonné dans les marges d'un cahier, ouais, quoi, très brouillon, effectivement.
Mais moi, j'ai trouvé ça très touchant.
J'aime pas effacer les mots, j'aime trop les lettres. J'avais du mal à effacer les messages. Et j'ai trouvé bien plus réussi la séquence finale, sans en dire trop, où tu traces des phrases. J'ai beaucoup plus apprécié cette séquence-là où tu as des phrases qui jaillissent. J'ai trouvé ça super joli, le fait de faire jaillir des lettres. Ouais. Effacer les lettres, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Voilà, ça me fait du mal d'effacer les lettres.
C'est beau ce que tu dis,
Patrick. C'est une expérience.
Ça s'appelle If Found. C'est 13€ sur PC. Je ne sais pas combien c'est sur iOS, mais c'est... voilà. Oui, quelque chose dans le genre. Mais je vois sur mon conducteur d'émission que c'est le moment d'accueillir. C'est le moment d'accueillir Jérémy Kletsky de sa chronique Jeux de société. Salut Jérémy.
Salut Erwan. Alors, tu sais que je fais toujours cet effort pour bien rester dans les 2 minutes. En général, c'est 2 minutes. Oui, là,
t'es un peu plus. Pas
un peu là, mais là, bon. Alors aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'un jeu qui s'appelle Mission Calaveras. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Calaveras, ce masque mexicain, fête de la mort, etc. Vous connaissez un petit peu incrusté de différentes couleurs. Ben, en fait, c'est un jeu extrêmement surprenant puisque l'éditeur, c'est Gigamic. On a déjà parlé de quelques jeux ici, hein, de Gigamic. Ce sont des jeux très familiaux. Mm. Alors déjà, il y a tous les jeux en bois qui font les Quarto, les Pilos, vous connaissez, les Corridors. Et puis, il y a quelques jeux, voilà, on avait parlé de 6 qui surprend récemment. Cosmic Factory. Ouais. Donc, des jeux très familiaux. Et là, on voit une boîte qui fait beaucoup plus mature. On dirait un thriller. C'est narratif. D'ailleurs, les règles, ça commence avec 4 pages de BD. Donc, voilà, 4 pages de BD au début de la règle qui nous mettent en situation. Et puis, surtout, bah, c'est l'histoire d'une scientifique mexicaine dans son laboratoire qui va découvrir une vérité, donc éventuellement un virus qui peut déclencher une pandémie globale, un truc complètement improbable. Et elle va prendre les documents et elle va contacter son ami journaliste lui dire « Je veux partir du pays, j'ai besoin de fuir, je me sens en danger. » Et donc, c'est ça un peu l'histoire. Son ami journaliste se sent suivi lui aussi et à un moment, elle arrive dans sa chambre d'hôtel et il est mort. Et le jeu commence. Pourquoi ? Parce que là, on va trouver des agents secrets. Et donc, les joueurs jouent le rôle d'agents secrets par deux. Donc, le jeu fonctionne, alors ils disent de 3 à 5 en créant des joueurs virtuels quand on est en impair. Non. Le joueur fonctionne à 4 joueurs ou à 6 joueurs, donc des équipes de 2, donc ou 2 ou 3 agences. Le KGB, la CIA et la DGSE, puisqu'on est dans les années 80. Et donc, ce qui est très intéressant, et c'est là vraiment que le jeu commence, c'est que le personnage de Nicole, donc cette femme scientifique qui veut s'échapper du pays, c'est pas un des joueurs, c'est un pion qu'on va poser devant l'un des joueurs. Et le but, ça sera de gagner sa confiance parce qu'on va avoir des points de suspicion qui vont être générés. Et ces points de suspicion, dès qu'on va atteindre les 7 points de suspicion, le jeu s'arrête et celui qui a le pion, donc la confiance de Nicole, va gagner le jeu. On a 3 cartes dans ses mains, donc des cartes lieux. On peut les poser ou devant les joueurs ou devant soi-même. Et aussi au centre de la table, du côté coupable ou innocent. Et ce qui est vraiment intéressant dans le jeu, c'est qu'au moment où on va poser une carte, il va y avoir plein de retournements. Parce que si à tout moment, au moment où on a posé une carte, un des lieux donc, où elle s'est sentie un peu visée, la cabine téléphonique, l'aéroport, l'hôtel, où elle a senti qu'il y avait une présence de quelqu'un qui la suivait, si à un moment, trois personnes sont innocents, le quatrième est forcément coupable, et hop, il chope des points de suspicion. Et pareil, si à un bon moment, une personne est la seule personne à être une carte, la même carte lieu qui se trouve dans la zone coupable, elle va avoir des points de suspicion. Et à ce moment-là, en fait, le jeu peut partir dans un sens ou d'un autre, c'est-à-dire qu'on peut très bien essayer de faire en sorte que nos deux joueurs aient le moins de points de suspicion, mais aussi on peut jouer au good cop, bad cop. C'est-à-dire qu'un de ces joueurs va prendre plein de jeux de points de suspicion, on va faire en sorte qu'elle ait confiance en l'autre. Parce qu'évidemment, on est dans la même agence, même si on a... Et le jeu se finit parce que c'est nous qui... Donc, en fait, il y a cette dynamique. Ce jeu est très rapide. Il va durer vraiment 15 minutes. Voilà, une fois qu'on a appris les règles, bon, au début, ça peut faire 20-25 minutes. Mais une fois qu'on a envie d'y rejouer tout de suite, voilà, bon, c'est un jeu à partir de 12 ans. Mais bon, mon fils a 8 ans. Donc, les enfants de gamers, encore une fois, ce qui est marqué sur la boîte, vous pouvez retirer quelques années. Moi, je conseille de 4 ou 6 joueurs, même si sur la boîte, ils disent à partir de 3 joueurs. Voilà, et puis c'est un jeu donc de Gigamic. J'ai vraiment adoré. C'est un jeu très simple. Il y a du bluff, il y a des retournements de situation de malade. C'est vraiment juste quelques cartes lieux. Et il y a une carte évidemment bonus qui permet de passer. Donc c'est un gros point d'interrogation comme ça qui permet de passer une carte d'un endroit à un autre, donc d'un joueur à un lieu au centre de la table ou du centre de la table à un joueur, et qui permet encore de créer des situations nouvelles. Voilà, donc un jeu simple. Je comprends un peu ce qui s'est passé dans leur tête. Ils se sont dit, ce jeu ne correspond à aucune de nos gammes, mais il est tellement bien qu'on va quand même l'éditer. Voilà, donc Mission Calaveras, je le recommande chaudement.
C'est rigolo parce que quand j'ai regardé la thématique, où il y avait un coupable de meurtre caché et tout ça qu'il fallait découvrir, j'ai pensé que ça a été un truc façon loup-garou ou façon où il y a un des joueurs qui a une carte cachée qui va devoir cacher le fait qu'il est coupable et tout. Mais en fait, non, c'est le jeu en lui-même qui va désigner le coupable et on le connaît pas au début. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant. Mm-hmm. Merci, Jérémy. À la semaine prochaine.
Bye bye. Non, je reste. On continue.
On va continuer avec des requins, avec un requin surtout, un très gros requin. Et une question, est-ce que un trailer diffusé au PC Gaming Show de l'E3 2018 n'aurait-il pas dû rester un trailer? je suis peut-être... Non, mais...
Ça donne le ton.
Bon, je vous laisse, moi, je peux pas rebondir, je sais pas.
Reste ici, Patrick. On va l'écouter, d'ailleurs, ce trailer. The depths will be discovered. The food chain will be disrupted. And the drama will get deadly. Things always evolve. Il y a quelques années, il y a longtemps de ça, sortaient des jeux, un jeu en particulier où il fallait écraser des gens sur la route et ça avait fait scandale, ça s'appelait Carmageddon, ça a été une calamité pour l'image du jeu vidéo, on en a parlé à la télé, le jeu vidéo c'est la violence, le jeu vidéo c'est la fin pour la jeunesse. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout, hein, on sort un jeu où il faut bouffer tout le monde, et personne n'en parle, sauf, il y a du monde qui en parlait. Ça s'appelle Maneater, comme j'ai dit en introduction, on a vu quelques images, en tout cas depuis l'E3 2018, où il a été annoncé. On savait un peu la thématique, on allait jouer le requin, il allait falloir dévorer à peu près tout sur son passage. Patrick, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on joue?
J'adore, je m'éclate avec. Voilà, on va en parler. Alors, c'est donc là, tu me lances sur un jeu en open world où on joue un requin tueur. Donc, ça, voilà, là, déjà, ça pose, un peu le décor. Alors, Les Dents de la Mer, c'est un vaste sujet au cinéma. Évidemment, c'est une borne cinématographique. Il y a eu du jeu vidéo, Les Dents de la mer. Hein. Il y a eu un jeu dès la fin des années 80 qui n'était pas bon du tout, qui était une sorte de shoot'em up mal foutu avec juste la licence plaquée. Et puis, on avait eu des choses un peu plus intéressantes sur PS2. On a eu un jeu officiel des Dents de la Mer avec la licence Universal, etc., qui se rapprocherait pas mal de ce Maniteur, d'ailleurs, en termes de gameplay. Mm. Ça date un peu, il a pas loin de 20 ans maintenant. Il y a eu même, j'ai découvert ça récemment, des suites aux États-Unis sur Wii et sur 3DS. C'est une autre histoire. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est intéressant parce que c'est l'antithèse totale du film. Enfin, surtout du principal, du premier film, même si j'aime beaucoup les suites, notamment le deuxième aussi. C'est l'antithèse, parce que le requin dans le film de Spielberg, c'est l'inconnu qu'on ne voit quasiment jamais. Quand on le voit, c'est l'horreur, mais c'est l'autre, c'est le mal absolu qui est invisible dans 99% des plans du film, donc c'est le mal inconnu. Là, c'est l'inverse total, puisqu'on incarne le requin, donc on perd tout le côté mystérieux, et on rentre même vraiment dans le prosaïque de c'est quoi être un requin au quotidien. Voilà, donc on va vivre la vie d'un requin. Et alors moi, j'y suis allé évidemment avec pas mal de craintes, parce que c'est pas forcément évident. Comme je te disais, incarner le mal absolu de qui est devenu une borne au cinéma dans un jeu vidéo, c'est pas forcément évident. Et puis diriger un requin, c'est pas forcément une évidence absolue, hein. On n'est pas, c'est pas flagrant.
On a fait le
C'est loin d'être évident. Et en fait, le jeu te prend tout de suite, en fait, dès le début. Alors ça, quand tu te dis, tiens, je vais avoir un, c'est pas un jeu sous licence et dans de la mer, mais on ne pense évidemment qu'à ça en jouant. Le jeu, en fait, commence sur les chapeaux de roue. Tu es un requin, etc. Tu manges quelques baigneurs, et puis un drame arrive, c'est-à-dire qu'on se retrouve nez à nez avec un chasseur qui va trucider ce requin après l'avoir attrapé, et on incarne la pauvre progéniture de ce requin qui survit, qui en emportant le bras du chasseur en question, qui va être le big boss à trucider au final, et commence l'aventure où finalement on a commencé les premiers instants de jeu dans la peau d'un gros requin, puis là on se retrouve petit requin dans un, c'est vraiment tu vois l'image du petit poisson dans un énorme bocal, et là on morfle, hein, parce qu'on est vraiment la proie, en fait. On commence dans ce qui s'apparente à un vrai écosystème avec une chaîne alimentaire qui est bien organisée, et on est tout en bas, c'est-à-dire qu'on commence tout en bas, c'est-à-dire qu'on se fait à peu près bouffer par tout ce qui traîne, et commence un long périple pour se venger.
On va pas se faire bouffer par des mérous ou des tortues, non, rassure-moi.
On se fait bouffer à peu près tout ce qui traîne, et on commence à cerner assez vite comment est construit le jeu. C'est plutôt malin. Alors en fait, moi j'y vois une sorte de mix assez improbable, hein, sur le papier, entre un open world à la Ubisoft, genre Far Cry, hein, avec une grande carte qui s'ouvre peu à peu, avec des points de sauvegarde et de transfert rapide, avec des mini-missions à droite à gauche que tu vas activer pour récupérer des bonus, etc. Donc ça d'un côté, et puis un jeu à la Hungry Shark, vous vous rappelez cette fameuse licence qui était sur mobile, qui est adapté sur Switch et compagnie depuis qui existe depuis un petit moment. On a une sorte de recette comme ça qui mélange les deux, avec un soupçon de GTA qui est bien là aussi, avec notamment une barre de recherche. On va voir après, ça a son importance, une barre de recherche comme dans un GTA, où quand tu croques quelques baigneurs, tu te fais vite repérer par des chasseurs de requins. Alors pourquoi je dis que c'est intéressant, c'est que le début du jeu, donc tu te retrouves vraiment dans la peau d'un pauvre petit poisson, et tu galères, et en fait au fil du temps, avec le jeu te lance dans une quête au loot, au point d'expérience, à l'évolution. Tu as ton requin que tu vas faire grandir, tu as des stades de croissance, hein. T'es tout petit, tu deviens je crois adolescent, adulte, et puis après tu as d'autres, moi je suis adulte, hein, je suis à une petite dizaine d'heures de jeu et je dois être au stade adulte, où là j'ai adoré ce moment où tu passes tes premières heures vraiment où tu galères, c'est-à-dire que tu n'es pas dans ce que tu achètes quand tu achètes la boîte de jeu où tu vois un super requin qui saute, qui mange des baigneurs. C'est pas ça le début, c'est-à-dire que le début tu vas galérer, et c'est peu à peu que tu vas vraiment gagner tes jalons, et le gameplay, je trouve vraiment, pour moi, décolle au bout de, ouais, je sais pas, 6-7 heures de jeu, où tu commences où tu passes à des stades où tu perfectionnes ton requin, tu as tué assez de boss, on va dire, locaux, parce que c'est le jeu aussi passe par des, un peu à la Far Cry, hein, tu dois aller désinguer des chasseurs de requins pour gagner de l'expérience, tu gagnes en ampleur, et là tu commences vraiment à pouvoir affronter les fameux chasseurs de requins. Et ces séquences qui sont plutôt, plutôt pénalisantes au début, c'est-à-dire quand tu vas croquer un baigneur, parce qu'on n'y pas, c'est un fantasme. Quand tu as regardé Les Dents de la Mer petit, tu as toujours rêvé d'être le requin, d'aller manger des baigneurs. Et quand tu fais ça, en général, tu as la sécurité qui arrive. Et dans les premières heures, c'est un enfer, tu te fais lessiver très très vite. Et puis arrive ce moment, il y a vraiment un moment où ça se retourne, où tu deviens assez puissant pour te dire, bah attendez, venez me chercher, j'y vais. Et là, tu commences. Hier, j'ai eu une séquence, c'était la fin du monde. C'est comme une partie de GTA où tu fais n'importe quoi, où t'as le degré de recherche maximal. Et là, j'avais 5-6 bateaux avec des mecs qui avaient des harpons dans tous les sens. Voilà, une explosion d'action à l'écran. Donc ça, c'est bien. Je trouve que le jeu... Et ouais, c'est surtout ce qui m'a plu. Donc c'est ce côté narratif. Alors oui, vous allez rire du narratif d'un jeu comme ça. Bah si, moi, je trouve que ça te prend pas mal le début où tu incarnes cette progéniture d'un requin qui se fait trucider et t'es de son côté. En fait, c'est tout bête, mais le jeu te met de ce côté du requin. Donc, ça va à l'inverse des Dents de la Mer. Et je me rappelle que le romancier avait dit qu'il avait d'ailleurs regretté d'avoir fait du requin un monstre, parce que le requin en a souffert pendant des années. Et là, justement, ce jeu, bah, il te remet dans les pompes d'un requin et te montre un peu ce qu'est la vie d'un requin au quotidien, qui n'est pas toujours forcément facile. Mais il y a ça. Puis je trouve qu'il y a on peut développer là-dessus, mais je trouve que c'est intéressant. C'est que t'as un vrai, t'as un vrai sous-texte écolo avec on te pointe, t'es dans des environnements dégueulasses, complètement salis par l'espèce humaine, t'as des décharges. J'adore, c'est que t'arrives des fois dans des endroits magnifiques, plutôt cotés, avec des yachts, etc. Toi, t'arrives en sous-marin, tu descends et t'as des déchets nucléaires partout, c'est immonde. Et voilà, je trouve que t'as vraiment cette vision du requin sur l'humanité et comment... Voilà, comment il a pu contribuer à... Tu es vraiment dans des environnements dégueulasses, excusez-moi du mot, mais c'est vraiment c'est abominable. Et je trouve que ça renvoie vraiment un miroir sur... je trouve ça plutôt malin, en tout cas. Et je me disais, en y jouant, je n'arrêtais pas de me dire, un Jaws 5, un cinquième film, il y en a eu un pas officiel, je crois, mais si on refaisait un jour un Dents de la Mer, il faudrait qu'il se nourrisse de ces questionnements sur l'écologie, sur comment on traite les animaux aujourd'hui. Voilà, et le requin souffre assez aujourd'hui pour que justement on se pose ces questions-là. Et je trouve que ce jeu, bah mine de rien, c'est peut-être un jeu un peu bas du front, action, etc., mais il pose ces questions aujourd'hui. Et ça, je dis chapeau.
Jérémy, tu y as joué aussi, et j'ai cru comprendre que c'était un peu sur la même ligne que Patrick.
Ouais, moi je suis pas d'accord avec comment il s'appelait, Étienne Mineur, qui dit qu'il n'y avait pas de successeur à Tony Hawk. dès qu'on commence dans les premières minutes, on voit qu'on peut faire des doubles sauts en dehors de l'eau. Il y a des rampes, il y a des bonnes du sol. Et tu te dis, bah, on va s'amuser. Ça va être. Alors, Patrick parle des Dents de la Mer. Moi j'ai une autre référence. C'était un très grand film qui s'appelait Deep Blue Sea, le grand rôle de Samuel Jackson au cinéma. C'est en fait le mythe du Minotaure qui est l'alliance de la cruauté animale brute et de l'intelligence pure, parce que bon, nous on est intelligents, c'est nous qui jouons au jeu, donc c'est le côté intelligent du jeu. Pareil. Et moi j'ai vraiment apprécié ce jeu. Enfin, je suis comme toi, peut-être un peu plus avancé que toi, parce que d'après ta description, je suis peut-être allé un peu plus loin, aussi adulte, dans le jeu, donc je ne l'ai pas fini, mais je le finirai. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans ce jeu, alors, je ne suis sûr pas de remarques par rapport à Foundit, etc. Mais c'est que voilà, c'est pas l'aspect narratif qui m'intéresse. Même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de, il y a un narrateur qui fait des petites blagues. Il y a plein, bourré de plein de petites choses qu'on comprenne. Au fond de la mer, tu en parlais, Patrick. On va découvrir des détritus avec qui ont toute une histoire. Il y a plein d'histoires de partout. Et c'est vraiment intéressant de découvrir, et puis on apprend ses fonds et on fait des allées et des retours. Il y a un petit aspect minuscule comme ça de Metroidvania, où plus tu grandis et plus tu as des spécifiques, des compétences, et tu vas évoluer, tu vas réussir à ouvrir des grilles que tu pouvais pas avant, ou tu vas laisser tomber sur des adversaires spécifiques que tu pouvais pas tuer avant.
Et les alligators. Les alligators qui te mettent la misère pendant quelques heures et après tu reviens voir. Ils tracent. C'est génial.
Ah, c'est l'alligator. Exactement. Donc moi j'ai appris qu'il y a des nutriments chez les tortues qu'on trouve pas chez les hommes. Donc après tu dois créer des... tu dois sur quoi tu veux investir, etc.
Et c'est vrai.
C'est un vrai RPG. Ouais, c'est un vrai RPG avec des vrais upgrades, bon, les batailles, c'est un petit peu, c'est un peu comme dans Skyrim. Le mieux, c'est pas les combats, tu sais, hein, c'est un peu comme des batailles spatiales parce qu'on est en 3D. Puis en plus, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors évidemment, les chasseurs ont des visées laser parce que c'est comme ça qu'on peut se retrouver dans les jeux d'action de combat. Et puis, il y a toute cette, on va dire, c'est une question de point de vue. Moi, je trouve, tu vois, c'est un peu le GTA des poissons. C'est-à-dire que si ça m'arrivait sur le jeu, de tuer des poissons juste pour le plaisir. Mmh. Tu vois ? Alors, en fait, c'est un peu inversé. C'est-à-dire que tuer des hommes, c'est naturel, c'est normal. Par contre, tuer des poissons qui t'ont rien fait alors que t'as toute ta vie et que
t'as un doute, rien t'as en élément.
C'est pas ça vraiment très sympa. Donc, c'est un petit peu l'environnement, la référence qui est différente. Et donc, voilà, moi, j'ai beaucoup. Pour l'instant, j'ai beaucoup aimé ce jeu, même si j'ai tendance à demander à mes enfants de ne pas rentrer trop dans la salle.
Ouais, c'est un peu trash. C'est vrai que je n'ai pas apprécié, mais il y a pas mal de progressions. On peut optimiser comme un... Ça serait comme tu dis, c'est vrai que j'ai pensé, les combats sont souvent brouillons quand tu es face à un boss ou tu galères avec la caméra, tu as du mal à suivre. Et heureusement, tu peux faire progresser ton requin, en fait. Tu peux lui ajouter, tu as plusieurs choses sur son corps que tu peux faire évoluer, sa gueule, etc. Donc, tu peux lui faire...
C'est comme son équipement. Il a un équipement, il a un RPG, tu peux les dents, alors tu peux vivre un peu plus, tu peux rester un peu plus en dehors de l'eau, tu peux un peu électriser les gens, tu peux faire un peu plus de dégâts sur le métal et donc sur les bateaux, etc. Donc au bout d'un moment, tu as vraiment un nombre incalculable d'upgrades.
Julie, tu avais une question?
Oui, j'ai une question. En fait, moi, j'ai pu voir, j'ai pu faire un peu le début et il y a plusieurs points. En tout cas, déjà, le premier point, le principal argument de vente, c'est quand même la possibilité de jouer un requin. Ça, bien sûr, je suis client direct. De manière générale, j'aime bien en fait, quand il y a des changements de perspective dans les jeux. Je veux dire, ça peut être me faire incarner une oie dans Untitled Goose Game ou une IA dans Observation. Tout ce qui m'oblige un peu à changer de paradigme, ça m'intéresse. Le souci que j'ai, c'est. Enfin, le souci. Ben, je ne l'ai pas encore, mais la question que je me pose, c'est est-ce que ça n'a pas ses limites ? J'ai l'impression qu'au final, le gameplay, du moins les combats, quel que soit le nombre d'upgrades, ça reste quand même un peu souvent la même chose. Et que passé un certain stade d'évolution, les baigneurs, en fait, ils te voient, ils hurlent, ils fuient, et toi, tu les dévores tous. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu rébarbatif à la fin ?
Il y a une répétitivité qui est discutable. C'est ultra répétitif, comme beaucoup d'open world. Hein.
Ouais. Voilà, bah justement, j'avais pas pris l'impression que les... De quoi ?
Jérémy ?
Je disais que c'est un jeu plus Just Cause que GTA, en fait. C'est un vrai pack à sable d'action, pas uniquement de possibilités. Ouais.
Et il y a des interactions un peu entre les autres types de poissons, c'est ça ? J'avais pas l'impression qu'il y avait trop de vie en dehors de ce que nous, on amenait, quoi.
Bah, c'est de la nourriture, les autres, en fait. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Tu sens que tu es un prédateur. Mais comme disait Jérémy, c'est vrai que tu as des doutes. Des fois, tu dis, est-ce que je vais en manger un peu plus pour, ou est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire ? Donc, tu te poses des questions que peut-être certains requins se posent dans la vraie vie. Il faut aimer ce genre de jeu. C'est vrai que les open world où tu vas aller gratouiller des coffres au fin fond de tel truc sur la carte, tu as une carte qui est pleine de... Moi, j'aime bien, je suis assez client de ce genre de truc. J'aime bien aller faire fouiller au fin fond de tel ou tel décor. Surtout, comme tu disais, Jérémy, c'est vrai qu'il y a quasiment, je ne vais pas parler d'une narration dans le décor, mais presque, parce qu'on t'explique, tu vois bien que ce qui se passe n'est pas normal, parce que il y a des centrales nucléaires qui sont vraiment au fond de l'eau.
Jérémy ?
Quand Julie, tu parlais de la motivation, qu'au bout d'un moment, ça devient répétitif. Moi, j'ai une véritable motivation, et je dois l'avouer, c'est vraiment ce qui va me faire tenir le jeu. Je veux voir à quel point mon requin peut grandir. Je veux savoir à quel point je peux devenir un monstre légendaire, des mers avec des milliards de petites évolutions. Quand on voit ce qu'on trouve au fond de la mer, les réacteurs atomiques qui sont en train de
qui coulent partout. C'est immonde.
Ce jeu n'a pas de limite. Et donc, je veux devenir un mégalodon. Je veux devenir ça. Et donc, moi, c'est ma véritable motivation qui fait que, comme dans tous les jeux, c'est pas que le chemin qui est important, c'est aussi la destination elle-même.
Voilà. C'est aussi le monstre radioactif que tu peux dire.
Et comme tu disais, c'est vrai que c'est gore, ils y vont franchement, c'est-à-dire qu'ils font pas semblant, c'est gore, et en même temps, il y a beaucoup d'humour. Comme tu disais, quand tu upgrades ta capacité à rester sur Terre, donc tu sautilles comme ça avec une dose d'oxygène, mais qui te permet un peu de tenir, quand tu arrives sur un golf super huppé, et que tu arrives et que tu bouffes 5-6 passants, et que tu replonges après, ce sont des scènes complètement complètement improbable. Tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Et ça fonctionne, c'est drôle, en fait. T'as une sorte de, voilà, t'as un humour et ça. Et puis, évidemment, tous les commentaires, parce que je crois que c'est dans un contexte de télé-réalité. Donc, t'as des commentaires qui sont plutôt rigolos d'un type qui arrête pas de parler de qu'est-ce qui se passe. C'est bien fichu, vraiment. Je trouve que le jeu, il t'embarque là-dedans. Et si t'adhères à la proposition, si t'es, voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu curieux du truc.
Moi, j'ai commencé, hein, j'ai commencé le jeu. Et alors, la proposition, j'adhère. Moi, je suis dans un rejet assez catégorique. J'avoue que... Et finalement, en vous écoutant, je crois comprendre un petit peu pourquoi. Je vais juste faire une petite parenthèse et j'ai trouvé ça... c'est quand tu as fait dans le retour dans le passé avec les licences basées sur les dents, ouais, de la mer, tu n'as pas évoqué le cas Shark Jaws. Shark Jaws, ah oui, qui est en 1975 la première borne d'arcade basée, faussement basée sur les dents de la mer. C'était une borne d'arcade Atari développée sans la licence parce qu'ils l'avaient appelé Shark Jaws avec le shark en tout petit et Jaws en grand pour utiliser la renommée du film de Spielberg.
Je trouvais ça intéressant. T'as une borne qui apparaît dans les Dents de la Mer, dans le film, t'as une borne d'arcade. Mm. Alors, je crois que c'est pas ce jeu-là, mais t'en as... Enfin, il y a un lien entre jeux vidéo et Dents de la Mer depuis...
Oui, non, c'est clair. Enfin...
Mais... Il y a des références de...
Mais en même temps, je trouve que c'est super... C'est un piège, hein, d'incarner le requin, parce que c'est en soi, il n'est pas intéressant. En soi, tu vois, dans les films, c'est ce qu'il représente. C'est la peur, et c'est souvent son absence qui fait toute la frayeur des films.
Mais je crois que moi, ce qui m'a pas intéressé dans la proposition, et je pense que tu as pointé le truc, c'est le fait de se retrouver à la manière d'un joueur de GTA 4 qui se marre en butant tout le monde à bord d'un hélicoptère. Et en ayant ces 4 étoiles de flic, ou 5 étoiles, et YOLO, et on s'amuse, et on tire, et on essaye de s'en sortir, et ça devient n'importe quoi, et ça devient un grand nawak. Et je sais qu'il y a des gens qui jouaient, et il y a plein de gens qui ont joué comme ça, GTA 4, ou GTA 5, ou tout ça. Moi, j'ai jamais accroché à ce type d'approche de l'open world. Moi, les GTA, je les ai faits en suivant le scénario, en essayant plus porté par l'histoire, par l'émission, par ce genre de choses, même si on joue des malfrats, que dans ce truc un peu what the fuck où on va comme ça être dans la démesure, dans le dans l'exagération, dans un peu dans le n'importe quoi. Et cette proposition-là, qui est assumée, hein, je ne vais pas reprocher à Maniteur d'avoir fait ce choix-là, parce qu'il est assumé dès le départ. Moi, j'avoue que j'ai... Une fois que j'ai contrôlé, que j'ai fait l'intro, que j'ai commencé à me balader dans les premiers lieux et dans les premiers endroits avec les missions, aller à tel endroit, buter, manger du mérou...
J'étais là, toute la faune, après,
non,
ouais.
Non, enfin, pour moi, ça a été... et c'est là où j'en ai blagué au début en lançant le jeu. Est-ce que ça aurait... C'est quoi l'intérêt d'en faire plus qu'un trailer? C'est que, finalement, moi, je... Ok, il y a cette proposition, il y a cette envie, c'est rigolo, c'est lol, de « Allez, on va jouer un gros requin, on va bouffer tout le monde ». Mais moi, une fois la manette en main, cette proposition-là, je repose la manette, enfin, parce que ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça me fait marrer à regarder ça 3 minutes dans un trailer, c'est drôle. Mais alors, manette en main, le côté justement drôle, le côté humoristique, le côté un peu décalé second degré de la proposition m'échappe totalement. Parce que une fois que t'as la manette...
T'as la carotte de la progression, Jérémy en parlait, t'as vraiment la carotte, t'as envie de continuer à progresser, t'as envie d'améliorer ton requin. Non seulement t'as ce côté éclate, tu vas aller matraquer même des chasseurs de requins et de leur mettre une misère, etc. Il y a vraiment, ce jeu, il y a une bascule quand tu commences à être plus puissant, où tu sens que les autres ont peur de toi, en fait.
Ce principe de jeu... Mais tu le prends, mais c'est dans 50% des jeux vidéo. La phrase que tu viens de dire, c'est d'être plus puissant, d'avoir du loot,
ça,
et de l'XP.
Bien sûr. Et puis, comme dans tous les open world, c'est la domination géographique, comme dans tous les open world.
Jérémy.
T'as l'habitude de voir des chevaliers avec des armures qui sont upgradées. Alors ça, oui, t'en as 50% des jeux. Mais combien de fois t'as vu des requins qui s'upgradent? Donc, s'il y avait des jeux comme ça, tout le temps.
Ah oui, non, c'est sûr.
Mais là, c'est complètement unique. C'est une découverte, c'est une envie de progresser. Et peut-être que ça va donner d'autres idées sur d'autres univers à tourner en RPG. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui attire et pas uniquement parce que c'est pour manger des gens. C'est pas ça qui m'amuse. Et je pense que ni Patrick ni moi, plutôt au contraire, au moment des moments où on mange des humains, on se dit le jeu n'aurait presque pas eu besoin de ça, quoi. C'est-à-dire qu'on est tellement dans la mer à penser à autre chose qu'on se demande même pourquoi on serait obligé
de
manger
des gens.
Ah, c'est
les dents de la mer. Ça, c'est le syndrome film de monstre, hein, qui est évidemment.
On est plus dans Sharknado en tant que
dans le Sharknado. Tu es les chasseurs de requins, d'accord. Parce que eux, c'est le jeu avec eux, quoi. Mais les baigneurs, les gens sur la plage.
Ah oui, complètement.
Bon.
Après, par rapport à la narration, c'est vrai que je trouve que le personnage du narrateur, qui est vraiment comme dans un documentaire animalier à la David Attenborough, quoi, il y a une vraie valeur ajoutée de ce point de vue-là. Quoi. Je trouve marrant, et en plus, on apprend des choses sur la vie, sur la faune aquatique.
Et moi, je suis en manque, il n'y a plus assez de films de monstres comme ça. Le dernier, c'était quoi ? The Meg, qui était sorti, était une sorte
de...
Mais moi, je suis en manque de films de monstres comme ça, comme Les Dents de la Mer. Oui. Donc, c'est très bien que le jeu vidéo s'y mette aussi. Voilà. Je pense qu'il y a une place. C'est une proposition. On aime ou pas, mais moi, je kiffe ce jeu. Voilà, c'est comme ça.
Ça s'appelle Man Eater. Et c'est sur quoi ? PC, console, partout ?
Ouais, PC, PS4, Xbox One. Et Switch, normalement, je crois, prévu pour un peu plus tard.
Ça a bien changé, Nintendo. on va terminer.
Il n'y aura plus de sang, peut-être.
on va terminer. On va terminer cette émission avec une petite virée côté horrifique narratif. Enfin, vous allez m'expliquer parce que moi, j'ai pas très très bien compris. Ça s'appelle Those Who Remain.
So now you decide.
Forgive? Or condemn. Condemn.
Alors, je vais avoir l'air de pas du tout accrocher au jeu de cette semaine, mais j'avoue que j'ai lancé Those Who Remain, qui sort ces jours-ci, là, qui sort aujourd'hui, où on commence avec cette voix off, cette bouteille de whisky, ce ton un peu désespéré, façon film noir. J'ai cru à un remake comment il s'appelait ce jeu de Remedy là
Alan Wake.
Ouais,
ah ben,
non avant
Max Payne.
Max Payne, tu sais, avec le côté un peu alcoolique qui raconte sa vie, sa femme qu'il a quitté, ce truc comme ça, et puis très vite on se rend compte que une injonction arrive, stay in the light, reste dans la lumière, et on sent bien qu'il vaut mieux rester dans la lumière dans Those Who Remain, parce que dans l'obscurité il y a des créatures un peu cheloues, n'est-ce pas Julie?
Ouais, et bien c'est pas anodin hein, finalement la comparaison avec Remedy, parce que moi ce qui m'a donné envie de jouer à ce jeu, c'est que j'avais l'impression d'y voir une sorte de Alan Wake que j'avais trouvé vraiment super chouette. Tout ce côté justement, les créatures sont dans les ténèbres et justement il faut rester proche de la lumière, ça m'avait fait miroiter de grands espoirs. Et finalement, en fait c'est un jeu d'horreur à la première personne qui est un point and click essentiellement. En fait, les seules interactions possibles, c'est récupérer des objets, les inspecter, etc. Donc il y a une ambiance. Ça, c'est indéniable. Mais voilà, le truc, c'est que quand tu lances le jeu, le premier constat que tu fais, c'est très original, quoi. Enfin, c'est effectivement l'histoire d'un homme qui doit rompre avec sa maîtresse à la tombée de la nuit. Et il y a un côté... Donc on apprend, en fait, effectivement, que des créatures sont tapies dans l'obscurité. Ça, c'est une chose que j'ai trouvée assez réussie, dans le sens où ces créatures, elles sont visibles. On voit leurs yeux, en fait, leurs yeux qui transpercent la nuit, donc leurs yeux bleus. On a l'impression d'être dans le village des damnés au début. Enfin, c'est plutôt chouette. Enfin, moi, au début, je partais assez intéressée. Et en fait, on se rend compte que non, ça a quand même resté très, très générique. Il y a aussi la possibilité... Enfin, donc, ce qu'on va faire, c'est résoudre des énigmes, trouver des objets. En fait, s'arranger pour toujours se faire un chemin de lumière, parce qu'une fois qu'on est dans l'obscurité, les créatures nous attrapent et on meurt. Donc, il y a aussi des portes de lumière qu'on peut franchir et qui nous amènent en fait dans une autre dimension. Et là, tout de suite, ça évoque Silent Hill. Et en fait, c'est ça. J'ai l'impression qu'on est dans une espèce de gloubi-boulga d'éléments horrifiques, mais sans véritable identité, sans véritable âme. Et ça, pour moi, c'est les grosses limites du jeu. En fait, ça m'a vachement évoqué les jeux qui ont été faits un peu dans le sillage de l'annulation de Silent Hills, en fait, après la sortie de Pity, donc la démo jouable, qui se déroulait dans une maison et au final, il y avait quand même un peu cette mécanique de lumière. Il y a eu un autre jeu comme ça qui s'appelait Visage, où c'est un peu le même principe. En fait, il faut être dans la lumière en permanence, sinon ton personnage devient fou. Et là, c'est un peu la même chose. Il va falloir trouver un briquet, suivre des guirlandes de Noël. Il y a quand même quelques petits moments intéressants où en fait tu te retrouves sincèrement à frémir devant un interrupteur parce que tu te dis mais c'est possible que ça allume la pièce d'à côté, mais c'est aussi possible que ça éteigne la pièce où je me trouve. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui m'a transporté dans ce jeu.
Patrick.
Oui, alors moi je suis assez d'accord avec Julie. Hein. Moi, je trouve qu'il y a un truc visuel. Ils ont réussi vraiment leur effet de cette foule qui apparaît dans le noir. Alors moi, ça m'a fait penser, t'as des images un peu à la Fog, le film Fog, où t'avais un film comme ça qui s'appelait Dans le Noir, qui doit dater de 2-3 ans, où dès que tu étais dans le noir, tu pouvais avoir des apparitions. C'était tiré d'ailleurs d'une séquence YouTube qui avait cartonné, donc ça avait été fait en film. Et c'était le pitch, c'est-à-dire que dans le noir, des choses peuvent arriver. Et c'est vrai que le jeu, là, il a ce truc-là, tu sens que les développeurs ont eu cette idée du t'as une pièce, dès que tu vas à une zone d'ombre dans le noir, tu as ces personnages qui apparaissent qui sont flippants. Franchement, je trouve que quand ils jouent la nuit, ça fait son effet. Les yeux qui te fixent, avec, tu vois qu'ils ont des armes. Il y a une vraie menace. En plus, tu as la musique qui est crescendo avec, donc tu as vraiment une ambiance. Et comme tu disais, Julie, tu as presque parfois des énigmes dans une pièce avec tel ou tel bouton qui va allumer telle partie. Est-ce que je vais aller dans l'autre pièce à côté pour me dégager un passage? Ça marche bien et je trouve que sur le plan visuel, ils ont trouvé un truc. Et c'est le truc du jeu parce que le reste, effectivement, dès le début, tu sens que tu es en terrain connu à la Silent Hill 2 avec un père de famille en pénitence, qui s'en veut, etc. Et après, effectivement, je trouve que le jeu devient extrêmement plan-plan. C'est-à-dire que il garde cette mécanique réussie des zones d'ombre qu'il faut savoir gérer, mais il s'embourbe dans un truc où tu dois juger des personnes. En fait, c'est là où je trouve qu'il a il commence de façon, il t'embarque bien dans son histoire, puis après ça devient décousu, c'est-à-dire que tu passes d'un endroit à l'autre sans trop saisir ce qui se passe. Tu comprends que tu es dans une ville et puis tu vas avoir des énigmes dans telle ou telle maison, tu dois juger une personne selon des indices que tu vas retrouver, est-ce qu'elle était coupable ou pas. Et là le jeu se prend les pieds dans le tapis, en fait, il tombe dans des trucs de recherche. Et là, je suis retombé dans ce syndrome du tiroir. Je vous ai parlé du tiroir dans Shenmue 3 où j'ai ce problème. Pour moi, comme tu disais, Julie, on est quasiment dans du point and click. Hein. La mécanique, c'est du FPS, vue subjective, avec un curseur. Point and click, tu cliques pour ouvrir. Tu as des tiroirs partout. Donc, tu ouvres tout parce que tu as envie d'avoir des papiers à lire. Et dans 99% des cas, c'est vide. Il n'y a rien. Et ça, c'est un truc, j'ai beaucoup de mal avec le syndrome du tiroir vide qui, pour moi, c'est vraiment une perte de temps. Ça casse l'ambiance, etc. Et en fait, tu te retrouves avec ces sortes d'énigmes par endroit où tu dois comprendre ce qui s'est passé pour tel ou tel personnage. Et ça, je trouve que ça rend le jeu assez décousu. Et puis surtout, t'as des vrais. Moi, j'étais arrivé dans une séquence dans le commissariat qui était très, très, vraiment plan-plan, où il fallait trouver des clés pour un type qui s'était évadé. Et c'était assez mal écrit. Je trouve que voilà, les dialogues n'étaient pas à la hauteur et il fallait faire des allers-retours dans le commissariat à la recherche de clés. Et en plus, le jeu te fait des twists où tu peux visiter complètement un endroit, il va te dire il te manque tel truc, donc tu y retournes et là ça peut apparaître. Enfin, c'est des trucs que je trouve un peu difficiles, et c'est dommage parce que la proposition, cet effet visuel fonctionne bien, mais moi sur la durée je trouve que le jeu a du mal à garder l'attention et il a des soucis d'écriture, de cohérence. Je ne l'ai pas encore fini, hein, je suis à quelques heures dessus. Mais c'est vrai que là, je suis arrivé sur, un ventre mou. Où on ne sait pas trop où il veut aller, en fait.
C'est très, très bizarre comme impression quand on lance le jeu. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de me prendre une claque de 15 ou 20 ans en arrière. Enfin, techniquement, il est quand même... Enfin, il n'est pas beau. Enfin, il est... Ouais. Je ne sais pas ce que... Ou alors, c'est mon ordinateur qui était mal configuré.
Il a un problème. Il a un problème. J'ai mis les gammas à fond. Il est très, très sombre. Et ça te bouffe. Les noirs sont mal gérés.
Le jeu commence sur un personnage. Donc, le personnage qu'on incarne, là, avec sa discussion avec lui-même sur il regrette d'avoir trompé sa femme, blabla, tout ça. Et il y a un gros plan sur sa main. sa main, elle est ultra mal
est
modélisée,
chelou.
Quoi. Elle est
chelou,
chelou.
Sa main.
Il y a une
bosse. C'est vrai
que
moi aussi, j'ai tilté.
Il y a un truc bizarre. Et après, quand tu vas, t'arrives dans l'hôtel, tout est... C'est pas beau, c'est. Il y a un espèce
bon,
de truc
oui.
où tu peux manipuler tous les objets, t'as l'impression d'être dans une démo technique d'un moteur physique des
et
années 90.
Ça sert
90.
À rien.
Enfin, c'est...
Ça sert à rien.
Il y a un truc.
Bah après, ça me choque pas, c'est un petit truc indé, c'est vrai que je trouve ça doit pas être une très grosse équipe.
Non,
mais...
c'est pas une
grosse.
Oui, mais
non, mais les graphismes,
quand on est un truc indé, une équipe indé avec ce type d'idée sur le noir, sur la lumière et le noir, on met la technique. À un niveau qu'on peut maîtriser.
Ouais.
C'est que je pense qu'avec cette idée de lumière, de noir, bon, qu'il n'y a pas grand-chose d'original, mais on va dire que cette idée visuelle de ces monstres qui occupent tout l'espace sombre et donc que tu vois en ombre, bon, voilà, on va dire qu'il y a une idée visuelle qui est assez sympa comme ça. Tu imagines une manière de la mettre en scène que tu maîtrises techniquement. Et là, on sent que tout de suite que les gens sont largués en termes d'immersion parce que c'est un peu laborieux quand même à manipuler.
C'est
tordu.
Il y a le côté graphisme, mais ça à la limite, je peux passer outre si tu as une ambiance. Moi, ce qui m'a vraiment, c'est le passage dans une dimension à la Silent Hill où tu te dis ah ouais, on a ça aussi. Tu sais, ça te tombe dessus, tu te dis ah ok. Et puis tu as même des énigmes, mais tu sais, des pauvres énigmes un peu prosaïques, genre il faut retirer un cajot devant une voiture pour allumer les phares et pouvoir éclairer un passage. Et ça, il faut passer dans l'autre zone. Tu passes dans l'espèce de outworld parce que là, tu peux retirer avec un insecticide ou je sais plus quoi, tu nettoies
c'est
une
ça,
voiture pour.
Le lierre. Mais ouais.
Ah, tu retires le lierre avec une bombe. Pour ça, il faut passer dans l'outworld et après, tu reviens et tu dis non, ça, c'est des trucs prosaïques. J'ai pas envie d'aller dans le monde négatif pour bouger un cajot et non, et c'est dommage. Tu dis non, ça marche pas, ça, c'est.
Mais il y a quand même quelque chose, d'un produit mal. D'un truc mal fini, en fait. D'un truc qui est. Ouais, il manque. La comparaison avec Maniteur, c'est qu'il y a une idée originale au début, et puis.
À part Maniteur, tu t'éclates.
Ouais, voilà, c'est ça.
Un
ils sont allés.
Ils sont allés franchir un portail multidimensionnel bouger un cajot.
Tu n'es pas d'accord, Jérémy.
Non, j'ai n'importe quoi la comparaison avec Maniteur. moi, j'ai la chance et le privilège. De ne pas avoir accès au jeu plus tôt que tout le monde parce que je ne suis pas journaliste et donc je n'ai malheureusement pas pu jouer à ce jeu apparemment
malheureusement
qui te tente
non mais à la limite c'était un compliment pour Maniteur, c'est-à-dire qu'il y avait cette idée originale dans Maniteur et ils sont allés au bout du truc et ils en ont fait un truc, j'ai pas accroché, mais c'est un jeu qui correspond à son ambition, on va dire. Et là, dans Those Who Remain, on a l'impression que justement il y a cette idée originale et il y a un truc qui a été développé qui est
autour.
Hyper bancal, un peu qui se casse la gueule de tous les côtés et qui correspond pas du tout à l'ambition originale du truc, quoi. Tu sens qu'ils ont été dépassés
par des petites séquences parce que ça aussi ça t'est coché, c'est les petites séquences un peu infiltration avec un monstre qui te court après avec la lampe et c'est pareil, c'est marrant une fois, deux fois, et tu vois, c'est répété plusieurs fois et du coup je pense que je vais le finir, tu vois, je vous disais, je l'ai pas fini, je vais le finir parce que j'ai envie de connaître le fin mot de l'histoire, tu vois, moi j'ai envie de savoir jusqu'où ça va, j'ai pas encore le temps de le finir. Mais j'avoue qu'il y a vraiment un phénomène de ventre mou au bout de quelques heures, tu te dis bon, OK. C'est dur quoi.
Alors Those Who Remain, c'est disponible sur PS4, Xbox One, Switch, Windows, Steam, iOS, partout. Vous pouvez ne pas y jouer. Voilà, mais il est disponible partout.
Ah, ou alors en promo, peut-être attendez une promo éventuellement, ça peut être un bon.
Voilà,
il est pas très cher. Il est pas très très cher, hein. Je crois qu'il a une vingtaine d'euros à peine.
D'accord.
Oui, il est pas cher.
Ouais, c'est pas un jeu à 70 ou attention. Hein. Donc faut aussi prendre ça en compte, mais peut-être attendre des soldes.
Non,
il y a aussi des belles petites citations quand même dans les écrans de chargement, notamment cette citation d'André Gide.
Oui, c'est vrai.
Pas les hommes.
C'est vrai, t'as raison. C'est vrai que j'avais tilté aussi. C'est vrai qu'il y a des. Ouais, c'est bien fichu ça.
Ouais. Mais bon, il faut mériter le temps qu'on y passe aussi. Quand même. Eh bien, c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick ?
Alors moi, j'ai découvert un film 20 ans après tout le monde. Voilà, c'est comme ça, j'étais en retard, je récupère mes arriérés de films et j'ai enfin vu Galaxy Quest de 1999. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu ce film avec une équipe qui joue dans une série à la Star Trek, évidemment, c'est très Star Trek, et qui, par des circonstances, va se retrouver à devoir vraiment mener une guerre intersidérale, en fait, parce que des aliens qui regardaient l'émission un peu ringarde à distance ont cru que c'était une vraie équipe de vaisseaux spatiaux. Et du coup, j'ai adoré ce film, 99. C'est surtout l'occasion de voir un nouveau film que j'avais pas vu avec Alan Rickman. C'est toujours un plaisir de regretter Alan Rickman qui joue c'est Spock dans l'histoire, et vraiment un plaisir avec Sigourney Weaver. Évidemment, c'est plein de clins d'œil quand on parle science-fiction, Sigourney Weaver, donc évidemment pas mal de clins d'œil. J'ai bien aimé. Puis moi, j'aime bien ces films où on joue sur l'aspect un peu méta, vous voyez, de personnages de fiction qui finalement sont catapultés dans le réel. Alors, on avait eu ça avec Starfighter, évidemment, avec cette borne d'arcade qui permettait d'identifier des champions du soude dans les années 80. Et puis un film beaucoup moins connu que j'aimais bien aussi, qu'il faut que je revoie, il faut que je le retrouve dans ma collection. Ça s'appelait My Name is Bruce, avec Bruce Campbell, donc le héros des Evil Dead, qui lui aussi, dans ce film, jouait son propre rôle d'acteur de Evil Dead, qui, lors d'un passage dans un village, se retrouvait confronté à une vraie menace surnaturelle, et tous les habitants du village lui disaient « Bon, mec, aide dans tes films, t'es un super combattant de monstres, donc aide-nous. » Voilà. Donc moi, j'aime bien ces films où tu as des héros en carton-pâte qui se retrouvent face à des vraies menaces, et Galaxy Quest, vraiment, je le recommande, c'est vraiment sympa. Une vingtaine d'années, je crois qu'il y avait des rumeurs de séries télé ou de suites, je sais pas trop où ça en est, mais une belle découverte, vraiment.
D'accord. Julie ?
Eh bien, moi, en ce moment, je me suis mise à relire mes vieilles BD, parce que je me suis dit, avant d'en acheter d'autres, peut-être relis une deuxième fois celle que t'as. Et donc, j'ai relu Les Intrus de Adrian Tomine. Je ne sais pas si vous voyez, c'est... je ne sais pas pourquoi je vous la montre. Mais...
nous, on voit.
Nous, on la voit.
Et donc, c'est Adrian Tomine qui est un peu l'un des, un des héritiers de Daniel Clowes et Chris Ware, et dont l'influence se voit énormément. Et donc, dans Les Intrus, c'est 6 petites histoires assez sympathiques. Donc, par exemple, sur une jeune femme qui se rend compte qu'elle a un sosie qui est une actrice porno. On a aussi l'histoire d'un homme qui décide de créer une espèce d'art hybride qui s'appelle l'horticulture et qui est persuadé que c'est l'idée la plus géniale du monde. Et une autre histoire sur un père dont la fille veut faire du stand-up et il se rend compte qu'elle n'est absolument pas drôle. Et voilà, ce sont des petits commentaires un peu sur la vie, le monde moderne que j'aime bien.
Jérémy.
Ouais, excuse-moi, j'étais en mode plutôt... j'écoute mon podcast. Et là, il faut que j'intervienne.
C'est ça.
Alors, j'ai préparé quelque chose. Alors, moi, je veux parler en fait d'un YouTuber, mais pas que, qui s'appelle Chris Ramsey. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Il résout des puzzles en bois, des casse-têtes à 5000 dollars.
Non, je fais juste une pause parce que j'étais en train de réfléchir à de quoi je voulais parler. Et tu ne vas pas me croire. Je m'étais dit, tiens, est-ce que je parle de Chris Ramsey? Je te jure, c'est vrai. Je te jure, je te promets. Je te promets, c'est vrai.
Un tour de magie, là.
Non, mais c'est incroyable. C'est un truc, mais j'étais même allé sur ma page YouTube pour me demander si j'allais parler de Chris Ramsey ou d'un de ses potes qui s'appelle Alex Pandrea, que j'aime
oui,
beaucoup aussi.
Oui, je connais Alex. Il est un peu plus fou. Il est complètement fou, le mec. Il fait des tours de magie purs, lui.
Ouais. Il est trop bien. Ouais. Mais bon, bref, continue sur Chris Ramsey que j'adore.
Alors, Chris Ramsey, voilà, les puzzles en bois, les cadenas, les gros casse-têtes à 5000 dollars, niveau 10, etc. Je peux mettre une heure à le résoudre et puis je peux regarder ça. Mais c'est pas ça qui est vraiment intéressant, c'est le fait que j'ai passé. Bon, lui, c'est un magicien, il fait. Mais surtout, j'ai passé tellement de temps dans les visioconférences pendant ces derniers mois que j'ai toujours cherché qu'est-ce que je peux faire hors champ. Et donc, en fait, j'ai passé des heures et des heures à m'entraîner, non pas uniquement autour de magie, parce que c'est le cas. Donc là, je suis capable de vous faire des tours de magie. Bon, évidemment, on va pas le faire maintenant parce que ça se voit pas au podcast. Mais surtout, j'ai appris un nouvel art qui s'appelle la cardistrie, qui est la manipulation de cartes qu'on est capable pour faire des... Et donc, Chris Ramsey est devenu mon professeur de cardistrie. J'ai maintenant commencé à avoir pas mal d'heures de vol. Alors, ça met beaucoup de temps avant de commencer à faire des choses qui sont intéressantes. J'ai des cartes partout sous les meubles, derrière les meubles, chez moi. Et voilà. Et donc, je vous dis, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et encore une fois, j'étais en rendez-vous pendant des heures et des heures. Personne ne se doutait du talent que j'étais en train de développer. Et c'est que très récemment où j'ai commencé à montrer aux gens, parce qu'avant, c'est pas très, on va dire, c'est pas très fluide. Mais là, ça commence à être pas mal. Donc, je commence à le tester autour de moi et c'est comme jongler en fait. C'est très actif. Voilà.
Mais c'est marrant parce que le truc avec le close-up et les tours de magie et les jeux de cartes, c'est un truc tellement, tellement nerd en soi. Enfin, tu vois, c'est presque caricatural tellement, tellement c'est nerd d'apprécier ce genre de choses. Mais moi, je suis... Oh, jolie collection de cartes, dis donc.
Ah ouais, j'avoue.
Voilà, voilà. Donc, là, par exemple, c'est un jeu de cartes Star Wars. Mais c'est que des jeux de cartes haut de gamme. Je me suis fait une collection, évidemment, sur les derniers mois. Il y a un site qui s'appelle Art of Play. On va trouver des... Mais encore une fois, ce sont des cartes qui sont faites pour la manipulation à la base. Mais qui sont aussi...
C'est quoi la différence? Si elles sont faites pour la manipulation, c'est une matière différente?
Elles glissent et elles se saisissent mieux aussi.
Il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs types de papiers, etc. Mmh. Mais bon, toutes les grandes marques, évidemment, Bicycle, qui est le plus connu, qui, on va dire c'est la standard de référence. Et puis, il y a Théorie 11 ou d'autres qui font des qualités de cartes qui sont excellentes et qui, dès que tu commences à les manipuler pour des choses un peu différentes les unes des autres, ou à faire tourner les paquets autour des mains, etc. etc.
Donc, différents paquets.
Ah, on voit les choses, là, ouais.
Ouais.
Et ouais, donc, évidemment, et donc, ce sont des choses qui... Chaque paquet a une chaque marque, etc., sa qualité de papier. Enfin, voilà, excuse-moi, je t'ai...
Non, c'est très bien. Et puis voilà, maintenant, je suis obligé d'avouer aussi mon côté nerd de cardistry et de tours de magie et de trucs à la con. Mais moi, je suis en plus, l'accès avec YouTube est complètement formidable là-dessus. J'ai un répertoire sur mon navigateur qui s'appelle Card Trick, où je dois avoir environ, je sais pas, 200 vidéos de tutoriels de manipulation.
Et tu nous parles de ça que maintenant?
Écoute,
non, mais tu dis ça comme non, ça, Erwan, on se connaît depuis combien de temps et on apprend maintenant tout ça?
Non, mais j'adore manipuler parce que c'est... En fait, j'adore découvrir les trucs qui m'amusent dans un premier temps. Et puis voilà, donc,
mais à moi, c'est génial. Ouais, je vais voir spectacle en duo pour la prochaine.
Voilà, bon, après voilà, il y a cette émission qu'on a le plaisir de retrouver sur YouTube et je crois aussi sur Netflix, sur le Penn & Teller, sur le Fool Us Penn & Teller, donc une sorte de jeu de télé-réalité où les magiciens viennent essayer de duper deux des plus grands magiciens, donc Penn & Teller avec un nouveau truc. Enfin voilà, c'est tout ce genre de truc que moi j'aime bien, et c'est vrai que j'ai commencé le YouTube game des magiciens et des manipulations de cartes par le formidable Canadien Chris Ramsey, qui en plus fait des résolutions de puzzle. Je suis moins nerd de puzzle aussi, mais c'est toujours rigolo de le regarder faire. Voilà.
Mais c'est ça qui fait le plus de vieux, c'est les résolutions de puzzle. Et tu sais qu'il est francophone, il est d'ailleurs à Montréal, bon c'est un Canadien anglophone, mais... On le sent des fois, il sort et il parle en français. Et... Ouais.
C'est ça. Voilà. Donc maintenant, vous savez tout. On a fait quand vous jouez pas très très long. Mais on va terminer là-dessus. Et puis c'est pas toutes les semaines qu'on a le plaisir d'avoir Jérémy avec nous. Donc merci à tous les trois. Et puis on va se retrouver cette fois-ci, c'est sûr, la semaine prochaine sur libération.fr et sur les internets. Ciao.
Bye bye.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.